Podcast.com. Essaye ça. Le crachoir épisode 210, In Gun We Trust. Salut Martin.
Salut.
T'as-tu ça, toi, des guns?
Non, j'ai pas de guns. Ce matin, j'ai cette voix. Cet après-midi, plutôt, j'ai cette voix sirupeuse parce que c'est comme on en a parlé à travers nos moult petites difficultés de pré-show. Ouais. Je suis en. Les All-Stakers savent de ce dont nous parlons.
Ils le savent.
Mais oui, c'est lendemain de show, alors c'est ça. Hein? Plus tu avances en âge et moins tu es en forme le lendemain. Mais super belle soirée, super le fun. Retrouver la horde de fans des Excentriques, c'est toujours...
Dans ton caisse de guitare, c'est vraiment une guitare, toi.
Oui, oui, absolument.
C'est pas une guitare américaine là, qui fait ta-ta-ta-ta-ta.
Non, et contrairement au frère Todd Roche, j'en joue pour vrai, voilà.
Ouais, c'est ça, puis tu les vends pas à tant le pouce, là, tu sais. Ben, j'en ai une 46 pouces, puis tu te souviens-tu de ça? Là, ils mettaient des guitares à vendre, puis là, ils décrivaient comme ça. Une guitare verte 37 pouces, 299$. Une guitare bleue... pouces,
c'est
aucun sens.
Daniel, c'est quoi la guitare que tu vends? C'est une bleue.
Ah oui, mais encore 27 pouces. Ah oui, la fameuse bleue 27 pouces de Jimi Hendrix.
Ouais, c'est ça. C'est 15$ la frette.
C'est de raisin. Ah, ça, pour vrai, ça avait été très drôle de voir ça. Des guitares. Tu sais, quand j'étais petit, on allait à la bibliothèque Gabriel Roy à Québec, puis on achetait des livres à la livre. Tu sais, mm-hmm. Ils vendaient leurs vieux livres, puis tu payais au poids. Mais des guitares au pouce, c'est la première fois que je voyais ça. Ah, mais il y a eu des belles...
Regarde, Frank, on pourrait établir une règle du pouce, là. Tu sais, si on vous fait une proposition de vous donner pour peu importe le montant là, mais tu sais, mettons 200$ et moins là, tu sais, un cours de guitare qui inclut la guitare, achetez pas ça. Achetez ni le cours ni la guitare. Ah, c'est cher frère Todd Roche. D'ailleurs, Tommy, écoute, est encore tout émoustillé de sa fameuse rencontre avec eux autres au Palace de Laval, alors qu'il s'était rendu sur place et de voir le visage un peu éberlué de Daniel qui se demandait que c'est que Tommy faisait là, puis
le visage hurluberlué.
Ouais, c'est ça. Fait que ça avait été, pas mal magique. Puis tu vois, moi aussi, hier, c'était là. C'est pas exactement dans le même quartier de Laval, mais j'étais à Fabertown, aussi connu sous le nom de Fabreville. Et écoute, c'était très chic par les talons.
Ben, j'ai eu la chance de voir des images, puis de l'intérieur du bar, puis l'ambiance avait l'air là, le monde dansait, le monde trippait, ça avait l'air cool.
Je l'ai pas vu
en show. La dernière fois, c'était au Diable Rond.
Ah, c'est au festival. Ben oui, c'était la préouverture du Festival des guitares du monde, un accomplissement dont je suis très, 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 très fier.
Festival qui bat son plein, justement, à Rouyn-Noranda, ce qui explique les cernes encore plus dégueulasses que d'habitude en dessous de mes yeux. Mais c'est un beau festival, puis je suis content de voir, parce que depuis le début de la saison, puis même depuis que les mesures sont parties, on dirait que les spectateurs boudent un peu les salles de spectacle, en tout cas ici, puis on en a déjà parlé, on a soulevé le fait que le monde s'était guéri avec des grosses TV, des gros ordi, puis ils ont découvert d'autres formes de divertissement à maison, puis il y en a qui sont devenus plus casaniers. Mais hier, c'était une salle comble quand même, puis c'était notre grande salle que j'avais pactée en masse de chaises, fait que c'est cool de voir que ça fonctionne, puis que les festivals ont l'air à reprendre, mais c'est sûr qu'avec le beau temps, puis tout ça, c'est nous autres, on est en début d'hiver, là, on a eu une petite été, puis là, ben, on est en début d'hiver, mais quand même, c'est toujours en début d'hiver, là, qu'on a nos meilleurs festivals, là, jusqu'au mois de septembre, là, puis là, c'est cool de voir se bien reparti avec le Festival des guitares du monde.
Ouais, puis tu sais, si tu me permets, parce que je suis quand même administrateur de ce festival-là, puis Tu sais, c'est quand même une espèce de, pas de renaissance, parce que c'était pas mort, là, c'était pas, c'est juste que, tu sais, les deux dernières années, il y a eu une édition qui s'est voulue un petit peu plus virtuelle, la première année, en fait, là, en 2020.
Ouais, c'était pas full 2020. Power comme d'habitude. Là.
Non, même pas. C'est ça, c'était pas possible. Fait qu'il y avait beaucoup, il y a eu beaucoup de prestations virtuelles et tout ça. T'sais, on a tout fait pour essayer de divertir les gens quand même. Et là, ben, par la suite, ben, il a fallu sauter cette édition-là. Fait que c'est un peu un retour comme après 2 ans. Là. Fait que c'est vraiment, tu sais, que les gens soient au rendez-vous. Je suis super content pour mes amis du comité, des bénévoles et tout ça. Et bien sûr, la directrice générale, Nathalie Grenier. Et le président, mon chum et le tien, Johnny Royal également. Connu sous le nom de Jean Royal.
Voilà. Ceux qui étaient aussi présents, c'est les conspis les mieux endoctrinés qui sont allés, entre autres, essayer d'hijacker une manifestation syndicale pour faire une manifestation dont on va parler, je crois, au terme des...
Actualité conspire.
Avant que on parle de la manifestation puis tout ça, c'est quoi, c'est parce que c'est arrivé en début de semaine, fait que tu sais, pour certains, peut-être ça va vous donner l'impression que ça remonte quand même à longtemps déjà, mais je veux parler à deux niveaux. Des alertes Amber, OK? Mm-hmm. La première, c'est très personnel. C'est pas des alertes Amber, c'est des alertes Amber. Merci. Ça, c'est, fallait que je véhicule ça. Écoute, les gens qui me connaissent savent que c'est le genre d'affaires qui m'énerve au plus haut point, là. J'en ai même fait un post personnel. Les gens, tu sais, des fois, ce sont pas toutes bonnes mes jokes, c'est bien correct. Mais tu sais, les gens comprenaient pas. Tu sais, j'ai dit, vous autres, votre autocorrecteur, là, quand vous voulez écrire alerte Amber, il écrit-tu alerte Amber?
C'est juste
là,
sur les
tout
birds.
Le monde me répondait, ah oh non, il écrit pas ça. T'sais, mon deuxième degré était finalement un 83e degré.
Ouais, c'est ça. Mais il y a juste l'autocorrecteur de Bert qui écrit Ambert.
Ah ouais, il y a ça. Puis l'autre affaire, je veux juste rapidement en parler parce que je veux pas juste en dire mon opinion. Là, on a des nouvelles là-dessus, mais écoute, c'est tu sais, les gens, peu importe la raison, et je ne questionne pas leur légitimité de ne pas vouloir avoir les alertes en berre. J'ai deux mots à vous dire. Mode avion.
Voilà.
Couchez pas avec votre sel. Mettez-la ailleurs. Organisez-vous. Garde. Il n'y a pas de problème avec ça. Dans un cas comme celui-là, je pense que le bien commun devrait prévaloir sur votre droit individuel que votre sel sonne pas.
Puis si vous êtes comme moi, puis vous aimez pas que votre vraie vie soit interrompue par des ding ou des désactivez toutes les maudites notifs, là, puis je vous dis, votre qualité de vie va en être augmentée, puis vous manquez rien d'important. Si vous ouvrez votre cell une fois à l'heure pour voir c'est quoi d'important, tu sais, maudit, moi, je comprends pas ça, puis je sais que c'est moi l'exception, c'est moi, je suis un des rares qui a aucune notif, là. C'est peut-être moi qui est pas capable d'arriver dans... en 2022, mais je comprends pas ça. Tu parles avec quelqu'un, puis s'il est un peu branché, ce qui est le cas de, je pense, 100% de nos auditeurs, là, c'est aux 5 minutes, là. Ting, ping, dou. C'est Messenger, c'est Facebook, c'est toutes les crises d'applications, ils ont des notifications. Moi, toutes mes notifications sont tout le temps toutes fermées. Puis quand moi, je décide que je veux voir s'il se passe quelque chose d'important, moi, j'ouvre mon cell, puis c'est pas le cell qui me dit « Hey, regarde, oh, tu manques quelqu'un qui a écrit « Good » ou tu manques un pouce dans les airs ou tu manques un « Fuck you ». Tu manques à rien d'important. Si tu veux, tu sais, avant, on allait voir nos courriels le matin puis le soir pour manquer rien d'important. Puis sais-tu quoi, quand tu fais ça encore, tu manques pas plus de quoi d'important tant que ça. Si vraiment il y a quelque chose, tu peux ouvrir ton cell une fois à l'heure, là, juste une fois à l'heure, puis ne pas vivre dans un monde de
Frank, en plus, c'est encore plus simple que ça. Tu sais, c'est la granularité des configurations maintenant d'à peu près toutes les applications te permet de déterminer lesquelles tu veux. Tu sais, je veux dire, fait que si c'est un message Messenger, tu peux, si tu veux, ça fera pas de bruit, ça vibrera pas, ça fera rien. Puis si c'est, tu sais, je veux dire, mais la beauté du mode avion, ça ferme tout. Fait que va te coucher. Achale-nous pas, c'est tout, là, tu sais. Anyway, puis là, ben regarde, on va rester dans le même sujet, Frank, parce que, tu sais, il y a des gens
pour
qui...
Tout ça pour dire que moi, je les ai pas, les alertes. Je ne sais pas. De toute façon, je suis inutile dans les affaires de même.
Il y a des gens pour qui ça va encore plus loin que ça, Frank, parce que évidemment notre amie la torche étincelante Baphomet Goyer, ben elle a cru bon, tu sais, de faire, puis c'est bien correct, elle a le doigt de faire valoir son opinion sur la chose. Alors tout ce que je vais te lire là fait partie du même fil Twitter, ok? Fait que c'est pas 3-4 pauses, puis non, écoute ça. Ciboire. On est supposé faire quoi à 3h du matin quand on se fait réveiller par une alarme dans le tapis, on s'habille et on part à la recherche d'une fillette? C'est quoi cette folie tabarnak? Et là, il y a quelqu'un qui lui répond, ça me semblait très poli, là. Ça va t'alerter même si t'es en mode avion? Elle répond, aucune idée, moi je les reçois jamais.
Ben, ta gueule!
Est-ce que tu peux être plus dans la démonstration de l'absolue nécessité de ces gens-là pour s'abreuver de confrontation.
Ah, mais ça, c'est...
Tu fiaules sur quelque chose que tu reçois pas.
Moi, je pense que la motivation profonde, là, c'est que tout le monde en parle, fait qu'il fallait qu'on en parle, parce que c'est une putaclic.
Ben, moi, c'est ça que ça donne comme impression, c'est du gros clickbaiting.
C'est parce qu'elle veut être là, si elle n'en parle pas, elle a l'air d'avoir manqué un sujet depuis.
Ah ouais?
Fait que, tu sais, c'est comme une station de radio, hein. Tu sais, il y a des sujets, là, quand tu fais un show d'actualité, comme je le faisais avant, si tout le monde parle d'un sujet, des fois, tu vas avoir tendance à dire, ben là, tout le monde en a parlé, je vais parler d'autres choses pour être intéressant. Non. Non, ton directeur des programmes va dire, non, tout le monde en parle. Si t'en parles pas, tu vas avoir l'air niaiseux. Tu vas avoir l'air pas au courant, tu vas avoir l'air en retard sur tout le monde. Fait que t'en parles. Puis avec les mêmes informations que tout le monde, puis t'as rien de mieux que tout le monde à dire. Puis, tu sais, des fois, ça peut être utile d'en parler, tu sais, quand même, ou ben, ça peut être intéressant pareil, parce que tout le monde a sa façon d'en parler, mais c'est parce que si tout le monde en parle, puis t'en parles pas, t'as l'air dépassé. Fait que moi, je pense que c'est ça qui l'a motivé. Ah là, tout le monde parle de ça, ben, faut que je dise quelque chose là-dessus, parce que tout le monde a droit à mon opinion, puis tout le monde attend mon opinion sur toutes les sujets. Fait que là, ben, il faut que je commente cette affaire-là aussi, mais même si je suis pas touché, je vais trouver une twist. Elle trouve une twist, ça a donné de quoi de complètement ridicule. Elle a eu ses clics, la pute à clic est contente.
On atteint un seuil où est-ce que, tu sais, c'est tellement, le contenant est tellement plus important que le contenu, comme je le dis souvent, que tu te sens le besoin de faire part aux gens de choses qui ne te concernent même pas parce que tu considères que ton opinion sur la chose va être importante pour ces géants-là. Fait que c'est assez spécial. Hey,
Stéphane,
je continue ça, mon point.
Stéphane, as-tu sorti quelque chose? En est-tu une autre putaclic, ça? Stéphane Blais, pas capable de s'empêcher de danser quand c'est pas ta lune.
Tu demandes-tu un cheval s'il veut de l'avoine? Fait que, écoute bien ça, là, pour une deuxième fois, hein, on a assisté à un événement biblique d'une importance capitale dans l'histoire de l'humanité. Et c'est bien sûr, pour une deuxième fois, des gens qui se sont rendus au palais de justice, cette fois-ci à Joliette, parce que avait lieu, évidemment, ce qu'on peut considérer comme être les derniers... il reste juste l'histoire, je pense, là, plus formellement, de ces contraventions là qui cumulent genre 60 et 10 000 piastres, je sais même plus le montant, probablement que lui non plus. Mais évidemment, je parle du sauveur de l'humanité, c'est-à-dire Amalega Bitondo. Et, ben écoute, encore une fois, on nous présente ça comme, écoute, un phénomène d'importance mondiale, les comparaisons Mandela continue de nous éclabousser dans la face. Et même scénario que la fois qu'André Pitt est allé à Trois-Rivières pour rien, si ce n'est que pour nous divertir. Et là, ben, on assiste encore à une situation dans laquelle on le sait qu'il va être libéré parce que les conséquences, s'il est reconnu coupable, sont moins grandes que le prix social qu'il a déjà payé. Tu sais, fait que, mais quand il sort, on a quand même droit à des applaudissements. On assiste presque à la libération justement de Nelson Mandela. On est dans l'euphorie totale et complète. Écoute, il y a du monde qui se sont présentés là pour aller crier liberté comme des pardus. Tu sais, juste, tu sais, c'est absolument et totalement flabbergastant de voir. Puis ouais, je sais, tu veux, j'y arrive, Frank. Puis là, tu sais, on nous présente ça comme si, tu sais, Amalega derrière lui, c'est le Québec tout entier. Il y a 28 personnes, tu sais, là.
Le peuple.
Il y a 28 personnes et lui, il appelle ça le peuple. Très important, là. Il faut savoir que derrière lui, Amalega François A, le peuple le.
Le peuple le. Mais moi, j'y suis allé de ma propre comparaison parce que Nelson Mandela, évidemment, ça n'a pas rapport. D'ailleurs, je l'ai mis sur la page du crachoir. Pour moi, c'est Ponce Pilate qui a libéré le zélote Barabbas. Fait que c'est pas Jésus, hein, c'est Barabbas qui a été libéré sous les cris de la foule en liesse, le peuple qui était dehors, puis qui a demandé « Qui voulez-vous que je libère? » Puis ils ont choisi le zélote Amalega qui va continuer de faire du zèle dans sa petite organisation là, son petit clan là. Mais pour moi, cette comparaison là est beaucoup plus à propos que n'importe quelle avec Nancy.
Puis le pire, Frank, c'est que dans le prononcé, parce que bon, il y a des gens qui ont insisté, tu sais, par les moyens prescrits à cette fin, à son audience et tout ça. Mm-hmm. Tu sais, il était home free là. Tu sais, je veux dire, bon, ben regarde, c'est correct, je me souviens plus si c'était 3 ou 4 chefs d'accusation, il y en avait 2 qui étaient tombés à l'eau ou peu importe, ou desquels il avait été acquitté, puis là, il en restait un, puis c'était troubler la paix, tapage, tu sais, tout ça. Puis, durant le prononcé, ce que j'ai compris, puis qu'on m'a rapporté, c'était que il a pas été capable encore. La cassette est partie, puis là, il a dit, ah, OK, monsieur. Donc, ça veut dire que si vous recommettez, fait que là, tu vas dire, en gros, il est en probation, puis s'il se refait pogner à faire du tapage, puis aller au Antaheur, puis à faire, tu sais, parce que c'était ça, là, au centre de tout ça, là.
Ah, puis il peut toi aller au Antaheur, là.
Il peut aller au Antaheur. Fait que, tu sais, même, tu sais, là, écoute bien, là, Frank, là. Tu sais, quand on était petit, mettons, là, tu sais, tu fais un coup plate, là, puis tu te fais pogner. Mm-hmm. Tu sais, ton père ou ta mère donne une passe, là. Tu sais? Mais pendant qu'il te donne la passe gratuite, là, ferme ta gueule. Mm-hmm. Non? Hey, c'est juste du gros. Fait que là, il y en a qui vont dire, non, c'est parce que lui, il est intègre. Puis lui, il défend son, ses droits, pis ses libertés. Pis non, là. C'est de l'illumination, là. Tu sais, c'est de se sentir investi de quelque chose qui est pas juste plus grand que toi, qui est plus grand que l'humanité et avec le sentiment que t'as tout le peuple là derrière toi.
Mission divine, là. Il accomplit la volonté du, tu sais, c'est, regarde, eux autres, ils sont dans une dynamique, le bien contre le mal, depuis le début. Fait que, c'est certain que, tu sais, quand tu représentes le bien contre le mal, t'es en mission sacrée et rien ne saurait t'arrêter, là. Fait que lui, il est dans cette dynamique-là, comme toutes les conspies, là. Je regardais hier là, la manifestation là, un peu là, tu sais, puis il y a une chance que Tommy est là pour rendre ça intéressant là, parce que c'était plate là. Les bouts les plus drôles, ben, c'est Joe Lendigo qui dit ses niaiseries habituelles en criant, puis mais il n'y a pas de revendication claire. Le masque, on l'a plus. Il n'y a plus de purée. Il n'y a plus de passeport sanitaire. Les mesures sur la dictature est tombée. Ils ont atteint tous leurs objectifs. C'est victoire sur toute la ligne. Les conspis ont vaincu la tyrannie. Mais l'affaire, c'est qu'ils aiment ça, être conspis, puis militer, puis faire des parties, puis des manifestations. Fait qu'ils arrêtent pas. C'est ça, c'est leur club social. Fait qu'ils veulent pas arrêter. Tu sais, c'est comme les conspis en ce moment, là. C'est une équipe de hockey, là, qui vient de perdre ou de gagner, peu importe, la finale de la Coupe Stanley. Puis ils veulent continuer à jouer, mais là, il n'y a plus d'arbitre, il n'y a plus de public. La plupart de l'équipe est partie jouer au golf ou aller faire rien chez eux. Mais il reste un petit noyau dur là, de l'équipe qui eux autres sont pas capables. Là. Ils continuent, ils patinent, puis ils s'envoient la puck, puis ils scorent dans un filet désert, puis hey, les deux bras dans les airs, puis ils se font des passes entre eux autres, puis après ça, ils se félicitent les uns les autres, mais ils accomplissent rien vraiment parce qu'il n'y a pas d'équipe adverse, il n'y a plus de coupe en jeu. La Ligue ne compte pas les buts et ne comptabilisera pas la victoire. C'est complètement inutile. Mais écoute,
ben oui, la LMM s'en occupe. Oui, la LMM s'occupe des scores, mais...
Oui, c'est ça. Mais on comprend. Mais tu sais, c'est une manifestation inutile où on revendique rien de clair. C'était juste... On revendique le droit, ou plutôt le... On demande le règne de la sauce. C'est vraiment ça, là. C'est le règne de la sauce. Puis il faudrait que toutes les autorités et que tout le monde... ça baisse à leur niveau et embarque dans leur espèce de logique de société utopique de qui se tient pas debout. Hein. Mais c'est ça, c'est juste la sauce, puis là, la reine, puis ici, puis ça. Pis... Hey, je suis encore sur le coup du poème écrit en l'honneur de la reine d'Illudo, là, que j'ai lu dans le Deep Steak. Là.
Ça n'a aucun sens. Et là, tu te demandes si le vrai virus n'est pas en train de devenir ça. T'sais. On dirait qu'il y a comme une espèce de phénomène de contagion de tout ça. Parce que, hey, écoute, tu parles de Ramona du dildo, là, 70 000 followers sur Telegram. C'est pas un petit phénomène. Là, c'est pas quelque chose. Oui, tu vas me dire 70 000, ben oui, J-Lo en a 8 millions. Non, on compare pas ça. Là. On parle quand même de quelqu'un qui dit au monde, payez pas vos billes d'hydro. Puis qui sont en train de se faire déploguer, puis qui réécrivent, puis qui écrivent à l'hydro. Romano nous l'a dit. Pis on est ailleurs complètement. Puis parlant d'être ailleurs, regarde, je vais closer ce que tu disais précédemment. Il y a quelqu'un sur Twitter que j'aime beaucoup suivre qui s'appelle Détresse Capillaire. Elle a tweeté ça. Hier, on l'a retweeté sur le compte de Ménage du Dimanche. Écoute ça. Ça, c'est hier matin, là. Un homme interviewé à Drummondville ce matin par une journaliste et qui se fait demander contre quoi il vient manifester et qui répond « contre tout ». Ça, tu viens de tout, gars, c'est la cristallisation totale et complète de ce mouvement-là. C'est pas un mouvement revendicateur, c'est pas un mouvement militant, c'est un mouvement contre tout.
C'est ça, la finalité de ce qu'ils font n'est pas d'obtenir quelque chose du gouvernement ou ben de changer les choses. La finalité... c'est l'exercice de la manifestation comme telle. La finalité, c'est la manif, c'est ça. Tu sais, vous manifestez pourquoi? Pour manifester.
Voilà, exactement. Tes revendications, comme je disais, là, une semaine ou deux, c'est whatever the fuck. C'est quoi la revendication à la mode cette semaine? Parfait, on va manifester pour ça.
Oui, c'est ça. Ou contre ça.
Le contenant au lieu du contenu.
Puis si la revendication est bonne, ben ils vont manifester contre ça.
Ou
bien des affaires qui se passent ailleurs.
On va y revenir quand même parce que hier matin, je trouve ça important de souligner ça. Kudos d'ailleurs encore une fois à l'équipe d'enquête Brigitte Noël Radio-Canada parce que est sorti un article que moi je considère bien important, toujours dans la foulée du décès de Bernard Lachance. Et on y apprend que une ancienne infirmière qui s'était rendue au domicile du chanteur québécois Bernard Lachance pour lui administrer un soluté le soir avant son décès a plaidé coupable de 5 chefs d'accusation pour exercice illégal de la profession. Marie-Soleil Perron, dont le permis d'exercice était périmé au moment des faits, écope ainsi d'une amende de 12 500 $, soit 2 500 $ par chef d'accusation. Fait à noter, et super important de le mentionner, c'est que il y a pas de ce soluté n'a pas causé la mort de Bernard Lachance. Dans son rapport, le coroner Pierre Bellil affirme que la mort était naturelle, causée par une septicémie bactérienne en lien à une infection au VIH. Si vous voulez voir l'article au complet, c'est sur Ménage du Dimanche, on l'a partagé hier.
Ça n'existe pas le sida, Martin.
Non, je m'en vais là. C'est que ce que je retiens plus précisément de cet article-là, c'est que, tu sais, on parle ici d'une infirmière qui n'avait plus le droit de pratiquer et qui a plaidé coupable. Tu sais, c'est probablement dans tous ces délires-là, je précise à nouveau que le coroner a établi que c'est pas ça qui a causé sa mort. Il a juste donné un soluté. Sauf que, c'est la première responsabilisation que je vois de quelqu'un dans toute cette histoire-là, ever. Et je pose la question, je l'ai posée sur MDD. À quand aurons-nous droit à quelque chose qui va concerner Guylaine Langto? Et je précise, je le sais, je suis très au fait que tu peux pas poursuivre quelqu'un parce qu'il a dit des niaiseries à quelqu'un d'autre. T'sais, le DPCP se penchera pas là-dessus. Il y a pas de décès d'humain. Tu connais 10 personnes, puis les 10 sont engouroutés ben raides par quelqu'un, mais tu peux pas aller voir le gourou et dire « OK, on t'arrête ». C'est pas comme ça que ça marche. Et tout le monde fait ça de son plein gré.
Faut que t'attendes que le disciple fasse une niaiserie. Mais c'est ça. Ben, moi, de la façon que j'ai perçu ça, puis je trouve ça très désolant et très insatisfaisant, c'est exactement la même chose que dans le marché noir de la drogue. Dans le marché noir de la drogue, il y a un motard ou peu importe, quelqu'un du crime organisé qui, lui, achète des grosses quantités de drogue, qu'il ne voit pas puis qu'il touche pas, puis qui fait transporter par du monde, puis qui fait vendre dans la rue par des ados puis des petits pushers qui veulent faire 100 $ ou ben qui veulent consommer gratis. Et puis, la police réussit tout le temps juste à arrêter le petit pusher de 14 ans. Puis, il donne une petite tape sur ses doigts. Puis, le motard, lui, il est loin, mm-hmm. il est plusieurs étapes au-dessus de ça, là. Fait que lui, jamais qu'il est touché. Fait que peu importe, lui, ses pocheurs se font arrêter, il change de pocheur, il en recrute d'autres et son stock s'écoule puis il fait le même argent. Puis c'est jamais lui qui se fait arrêter. C'est tout le temps le petit pocheur qui fait la job dangereuse puis à risque de se faire arrêter puis qui est pas assez brillant pour ne pas se faire arrêter lui-même. Ben c'est la même affaire. Guylaine, là, c'est le moteur, OK? Guylaine, c'est le moteur puis elle entraîne ses pocheurs à propager sa marde puis à poser des actions qui concordent avec ses enseignements de marde dangereux. Mais elle, c'est pas elle qui elle a pas touché à Bernard, là, tu sais, avant qu'il meure, tout ça, là. C'est l'autre qui a probablement tenté de lui sauver la vie. Il était déshydraté. Elle a essayé de l'hydrater avec un soluté. Son intention était probablement bonne. Mais tu sais, elle, c'est pas d'elle que vient l'idée de se purger des médicaments puis de penser que le sida existe pas. Elle, c'est la petite pocheuse niaiseuse de 14 ans qui s'est laissée embarquer puis qui est allée poser des gestes, peut-être de bonne foi, peut-être pas, je m'en sac, pour vrai, c'est même pas important. Ce qui est important, c'est que le moteur en haut, il est à l'abri, l'argent rentre, les disciples continuent à s'accumuler, il fait des petites apparitions, il est devenu une petite légende dans son affaire puis c'est ça qu'elle est. C'est le moteur qui exploite les gens et ceux qui se font taper ses doigts quand leurs actions ou les enseignements du moteur Guylaine Langteau ont des conséquences, c'est eux autres qui se font ramasser. Puis elle, tout ce qu'elle ramasse, c'est de l'argent puis des nouveaux adeptes. Si, t'sais, on dit, faut jamais haïr, puis la haine. La haine, c'est un sentiment légitime, là. Et c'est pas quelque chose qu'on choisit pis qu'on contrôle. Elle, je l'haïs en tabarnak. Jean-Jacques Crèvecoeur aussi, je l'haïs, je le hais, c'est de la vraie haine. J'incite pas personne à l'haïr autant que moi ou à poser des gestes de violence. J'haïs la violence aussi. Mais ces humains-là qui sont les tant qu'à moi, les pires vautours de la pandémie, ceux qui se mettent riches vraiment, tu sais, en faisant vraiment du vrai tort à des gens, là, en fucking des cerveaux, là. Je n'éprouve pas d'autre chose que du mépris, de la haine pour ces gens-là, et je m'en excuserai jamais, et je l'assume à 100%, fuck them. Je leur souhaite beau cancer du cul qui fait mal puis qui est humiliant à l'hôpital.
Selon la famille du chanteur, c'est Mme Langteau qui a mis Bernard Lachance en contact avec Mme Perron. L'historique d'appel de Bernard Lachance, consulté par Radio-Canada, révèle d'ailleurs que le soir avant sa mort, M. Lachance a passé 24 minutes au téléphone avec Guylaine Langteau avant d'appeler Mme Perron. Et je conclue en te mentionnant ceci, et je vais avoir un petit commentaire à faire après, mais les proches du chanteur se désolent du fait que l'entourage de ce dernier, notamment Guylaine Langteau et ses adeptes, n'est pas encouragé Bernard à obtenir des soins plus sérieux à l'hôpital. Une enquête de Radio-Canada, de laquelle on a déjà parlé, publiée il y a quelques mois, révélait que Mme Langteau encourage plutôt ses adeptes à éviter les médecins et les hôpitaux. Fait que là, moi, je vais vous dire ce que je pense de ça. Ce que je pense de ça, là, c'est qu'il y a du monde qui se font auditer par l'impôt. Il y a du monde qui se font, intercepter sa rue pour des tickets pas payés puis des affaires de même. Puis elle, cette madame-là, on n'est pas dans ses shorts, visiblement. Si c'est le cas, je m'en excuse, je suis désolé, il y a peut-être déjà des gens, des autorités qui suivent ça de proche ou de loin. Mais là, il est temps qu'il se passe quelque chose. Aimez-la pas de problème. Sauf qu'à un moment donné, quand que tu te ramasses toujours pogné dans des affaires comme ça, que Radio-Canada arrête pas de faire la preuve que cette personne-là est toxique, qu'elle dit au monde de pas aller voir de médecin, qu'elle dit que le sida, ça n'existe pas, qui suggère de devenir maintenant à l'avenir une jument ailée. Y a-tu quelqu'un qui peut faire quelque chose puis aller poser des questions aux personnes? Là, bravo à Brigitte Noël, bravo à l'équipe d'enquête. Vous pouvez pas en faire plus, là.
C'est pas police.
Vous pouvez pas sensibiliser la population plus que vous l'avez fait là. Y a-tu quelqu'un qui va aller se mettre le nez là-dedans une fois pour toutes? Puis je parle pas du collège des médecins, là. C'est fait, ça. C'est réglé. Guylaine Langteau, elle peut plus pratiquer. C'est tout arrangé, ça, là.
Mais elle peut encore s'enrichir à faire ça.
Elle continue de le faire.
Puis elle s'enrichit. Guylaine Langteau, là, c'est Maurice Mombouchet qui s'en va apparaître dans le public à Pimentfort en pleine guerre des motards. C'est ça que c'est. Elle est même pas gênée, la tabarnak. Ah, si, on va arrêter parce que mon niveau de langage va baisser un peu trop.
Fait que on souhaite vraiment, moi c'est ce que je souhaite le plus, c'est que s'il y a d'autres choses à exposer, ben écoute, l'équipe d'enquête fait un job colossal, mm-hmm. puis que ça continue, mais que quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui est proche des autorités, qui entend notre cri aujourd'hui, puis je suis certain qu'il y a plein de monde qui sont d'accord avec nous autres, ben on, y a-tu moyen de faire quelque chose? Parce que visiblement, les gens qui sont sous son joug, ils peuvent pas le faire eux-mêmes. Fait qu'il y a-tu quelque chose d'illégal là-dedans, pis on peut-tu mettre un frein à ça?
Il y a sûrement un levier juridique qui existe pour combattre ça. Elle fait des victimes, elle fait du mal. T'sais, j'aimerais ça qu'on revoie la définition d'une secte au Québec, hein, parce que j'ai l'impression que si on actualisait ça, là, il y en a une couple qui se ferait démanteler, là. Il y en a une couple de conspi qui passerait dans le tordeur, des gens toxiques puis des gens dangereux comme Jean-Jacques Crèvecoeur puis Guylaine Langteau, là. Mais tu sais, au Québec, on est tellement comme accueillant puis tolérant ça existe pas des une secte là au Québec. La façon que ça marche là, au Québec, c'est une secte est déclaré secte une fois que tout le monde s'est suicidé au Kool-Aid, OK? Avant ça, c'est jamais un regroupement religieux. Faut respecter ça. Faut respecter les croyances. Fuck you! Faut pas respecter les croyances, OK? Ça, on peut respecter les gens, là, mais on n'a pas à respecter des croyances qui ont pas d'allure, puis on n'a pas à respecter des philosophies de vie de jument ailé qui dit au monde que le sida, ça existe pas, puis que les hôpitaux essayent de les tuer. Ça, on n'a pas à respecter ça. On n'a pas à tolérer ça. Puis je suis convaincu qu'il existe un levier juridique pour mettre fin à ça, puis que personne n'a le courage de peser dessus. Puis s'il n'existe pas, là, je demande au parti des élections qui s'en viennent, là, mettez vos culottes, astie. Puis proposez un projet de loi, essayez d'actualiser un peu pour qu'on puisse protéger la société de ces gens-là. Parce que ces adeptes, ce sont tous des victimes. Même s'ils rentrent là-dedans de leur plein gré, c'est jamais vraiment de leur plein gré. Ils sont pas plus là-dedans de leur plein gré que moi, j'ai été baptisé catholique de mon plein gré. Je savais pas ce qui se passait, puis je me faisais manipuler physiquement, littéralement et figurativement, mais c'est ça qui arrive avec ces gens-là. Ce sont des gens vulnérables qui se font exploiter puis qui se font chier dans la tête. Puis on fait rien pour les protéger, là. Je sais pas si la secte est une bonne voie. Moi, je suis pas juriste. Je connais rien là-dedans. Mais une chose que je sais, en tout cas, c'est que j'ai un sens moral pas pire, là. Puis il me semble que c'est mal, ce qu'on voit. Il me semble que c'est mal, que c'est immoral de pousser des gens malades à fuir les hôpitaux, à avoir peur des hôpitaux, puis à se soigner avec du jus de céleri ou je sais pas quelle hostie niaiserie, ou se déshydrater, puis se purger, puis se chier leur vie. Bernard Lachance a chié sa vie sous les conseils d'une gourou de secte. Mais jamais on peut employer ces mots-là, tu sais, dans un cadre juridique, parce qu'une secte, ça existe pas au Québec. Ça existe quand tout le monde est mort.
Il y a une fille, il y a quelques années, il y a une fille à Laval qui, tu sais, veut changer sa vie, puis toute la quitte. Puis elle fait plein de démarches, elle obtient du financement pour se partir son petit commerce, puis toute la quitte. Puis là, ben écoute, hein, tu veux économiser, tu veux partir sur des bases solides pour partir ton commerce, puis tout ça. Fait qu'elle trouve un local, écoute, elle se met à meubler ça, toute la patente. Là, ben écoute, elle décide de peindre son local. Fait que elle se fait pogner par la CCQ parce qu'elle n'a pas de carte de peintre. Puis elle reçoit une amende de 8 000$. Elle est obligée de canceller son projet parce qu'elle n'a pas fait venir un peintre en public. Là, j'ai rien contre les peintres en bâtiment, j'ai rien contre la CCQ, on se calme, là, OK? Fait que, mais tu sais, tu parles d'un commerce qui a peut-être 20 par 20, là, OK? Genre, il me semble que c'est dans le café, du thé, des affaires comme ça, là, OK? Fait qu'il faut qu'elle mette la clé dans la porte, son projet Chris Lecan au vidange. Puis, tu sais, elle aurait peut-être eu créé une job pour elle, un autre la fin de semaine, tout. Mais Guylaine Langteau, elle peut te dire de pas aller à l'hôpital, puis elle a aucune fuck-all de conséquences. Moi, c'est juste ça, mon point. Je suis pas assez versé dans le secteur, puis tout le kit. C'est la loi du fucking gros bon sens. Ça a aucun sens. Puis là, Frank, je suis comme toi, on va changer de sujet, on va s'en aller dans... La médecine alternative, mon cher.
Je suis déjà de mauvaise humeur aujourd'hui, l'entendez, là, puis je vais le rester,
ça,
je vous avertis, là, mais...
Ça, c'est cute.
Ouais.
C'est cute, ça, écoute bien ça.
C'est des roches magiques.
Là, il y a quelqu'un sur Twitter qui dit, moi, là, écoute bien ça, là, moi, ça fait depuis l'injection que pour le H1N1, c'est jamais parti, j'ai comme un sifflement intense qui veut pas partir. Puis je pense pas que ça soit ça, là, mais t'es bien fine de tes bons mots. Il s'adresse à Caroline Lessard, la présidente du fan club. de Sornet Strudel.
OK, pathétique.
Et elle de lui répondre, « Oh boy, t'es victime d'effets secondaires du H1N1. As-tu essayé de désintoxiquer ton corps? Ça coûte pas cher. Va t'acheter quelques citrons, de l'eau, puis du bicarbonate de soude, la petite vache. » Ça, là, tu sais, là, c'est un commentaire sur Twitter. On envoie 13 à la douzaine de ça. Tu sais, on a tout un mononcle que quand on a appris qu'un membre de notre famille avait le cancer, elle dit, boy, du canneberge. Il faut qu'il mange des raisins. Bon, OK, c'est correct, ça. Mettez-le pas en prison pour ça. Mais encore une fois, c'est la perpétuelle goutte d'eau qui sème le doute chez les plus crédules qu'il existe d'autres affaires, que t'es victime de quelque chose, qu'il existe la panacée la plus simple sur la planète fucking Terre, là. Un citron pis de la petite vache, ça va tout régler tes problèmes. Et là, ça, là, c'est peut-être le point d'entrée, là. C'est peut-être... Chris, tu pensais que ça se peut que le gars il fasse juste de l'acufène, tabarnak, là?
J'ai partagé ça sur la page du Crachoir, puis mon commentaire de post, c'était « Les esprits faibles aiment les explications simples et les... » Non, les explications simples et les solutions faciles. « Ah, tu files pas, c'est le vaccin, bois de la petite vache. Hey, » Non, mais c'est comme ça, la religion, c'est comme ça aussi, là, tu sais. Oh, comment se fait-il que se forment dans le ciel plusieurs lignes de couleurs parallèles, tu sais, puis Dieu y envoie ça. Ah, ouais. Un tremblement de terre. Comment se fait-il que la terre, si stable d'habitude, se mette à trembler et puis que nos maisons tombent? Dieu est fâché.
Ah, pis, hey, on a une bonne récolte ça, cette année.
Je sais pas si c'est nos semences ou ben si c'est le fait d'avoir désherbé avant, mais on a des bonnes récoltes cette année. Non, récompense Dieu. C'est la simplicité. Le monde aime ça, facile. C'est pour ça que la pandémie, toutes les théories de conspi poignent, parce qu'ils sont toutes plus simples que la vérité. Tu sais, c'est comme, ça existe pas. Ah, finalement, c'est une grosse grippe. Ouais, mais c'est comme... ils ont tout le temps une explication super simple. Puis, ils choisissent la plus simple, puis c'est celle-là. Parce que c'est la seule qu'ils comprennent. Moi, je comprends pas exactement comment ça fonctionne avec les spicules, tout ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui étudient. Parce que c'est complexe, la vie. Mais quand c'est trop complexe pour toi, tu peux soit décider de t'en remettre à des gens qui ont étudié et qui comprennent cette complexité-là, qui peuvent te la vulgariser... Ou bien, tu choisis quelque chose de facile à comprendre, qui est probablement pas vrai, mais au moins, tu te sens pas comme un niaiseux de pas comprendre.
Frank.
Ouais.
Ah, il pleut. Ah, Jésus de la peine. Ah, moi, j'ai déjà entendu ça, là. C'est spécial. Mais là, écoute, on va s'en aller du côté de notre ami, bien sûr, qu'on a débaptisé grâce à un commentaire absolument fantastique. Une suggestion de nouveau surnom pour notre ami Cheveux de Prince. Et j'ai bien sûr nommé le Prince of Bel-Air.
Oui.
Recommence à s'en donner à cœur joie. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sont pas déjà, on vous invite à devenir membre du Deep Steak parce que dans le dernier épisode du Deep Steak, nous avons assisté à cette superbe présentation qui meubleront les festivités associées au Congrès des Ambassadors le 4 juin prochain. Et écoute, Ouais, tout va y être, hein. La résilience des ambassadeurs, se préparer financièrement pour sortir du système. En tout cas, tu sais, un paquet de styles de bouettes de même pendant 2 jours. Le tout, bien sûr, animé par le sémillant Samuel Grenier. Et il y avait une petite mise en scène aussi, c'était fantastique parce que on assiste évidemment à un live dans lequel Samuel Grenier, hein, tel un Pierre Nadeau, hein, anime tout ça de main de maître, pour rejoindre bien sûr le Prince of Bel-Air et Tutti Frutti World Tour dans leur véhicule, mon cher, bien sûr.
Puis il réalise comme un Spielberg, hein, ça s'appelle ses moves de mise en scène incroyable, avec ses zooms de souris, là. Hey, c'était au son du...
Ah, oh ouais, c'est presque de la ASMR, ben oui, parce que t'entendais ça cliquer, mon vieux, c'est un méchant temps. Et, ben, j'ai bien aimé adoré plutôt l'espèce de petite mise en scène dans laquelle, ben oui, Samuel, c'est toi qui vas animer ça. T'sais, là, l'espèce, l'euphorie totale et complète, écoute. Et là, ben, on apprend, bien sûr, que Docteur Lénon Plaisir sera l'invité, la rockstar avec sa table de merch et ses livres. Écoute, à quand les G-strings?
Et sa face de ventriloque.
Ah ouais, c'est ça, avec son faciès de plâtre.
Vous devrez survivre à nos plaisirs.
Fait que, écoute, ça va être absolument... Hé, hey, la bonne nouvelle, Frank. Tu sais, il y a un silver lining. Bon, Frank est cassé.
Nos plaisirs.
Nos plaisirs. Mais la bonne nouvelle...
Je vois sa gueule toute jamais. Là.
Ah ouais, oui. C'est quelqu'un de très expressif. On voit pourquoi il a décidé de se recycler comme écrivain, parce que les communications, il y en a que c'est moins pour eux autres. On va dire ça comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura prestation musicale, Frank, le soir. Hein? Et ce sera public.
Wow.
Puis ceux qui ne me voient pas présentement, j'ai les bras en l'air, je suis en total pamoison et je suis heureux. Par contre, ben, il va falloir qu'on regarde ça en différé, Frank, parce que nous autres, on va être avec Mike Tremblay pour sa 400e au Brouhaha, Rosemont, et c'est complet, malheureusement, mais ça sera diffusé sur tout ce qui est TV.
Mais qui fait la musique?
On le sait pas, mais j'ai comme un gros furling.
OK, on sait pas que ça va être Amélie Paul.
On va peut-être se faire pioniser. Ça sera peut-être ce cher Tartin, c'est-à-dire Yvan Pion.
Ça serait spécial.
Ah ben oui, puis là on va avoir, Lily Monadier qui va venir nous faire, les petits solos de tambourine, puis des enfants. D'après moi, ça va avoir une vibe très commune, hein, les 70, là. Ça,
ben, Yvan, si tu fais de quoi d'assez bon, je vais te parodier encore une fois.
Ah ben oui, ben j'ai en tout cas. Fait que écoute, c'est vraiment le congrès de la sauce ambassadoriale qui se déroule le 4 juin. On sait pas si c'est où, puis comment qu'on dit ça déjà. Voyons, aidez-moi donc là.
On s'en calisse.
Exactement. Mais on va suivre ça pour vous autres parce que vous nous connaissez. Quand ils sautent pas le tour, nous autres non plus. Alors, on vous fera évidemment probablement dans le Deep Steak le rapport complet avec Watch Along et toute la patente parce que on aime ça faire ça. Et c'est la dernière, ou même j'aurais envie de dire, en tout cas, je parle juste pour moi, la première ligne de défense que moi j'ai trouvée pour ça, puis je vous remercie d'être encore là avec nous autres, c'est l'humour et hostie que c'est drôle. Tu sais, là, il y aurait pas eu de pandémie, il y aurait pas, les choses se seraient invariablement passées différemment, là.
Oui.
On peut pas prétendre quoi que ce soit d'autre que ça. Mais, j'espère que s'il y avait même pas eu la pandémie puis qu'il y aurait existé des groupes comme ça, qu'on serait exactement au même endroit où nous sommes présentement avec vous autres. Parce que c'est la ligne de défense principale que nous autres, on vous suggère, en tout cas. Ben oui, on crie, puis on jappe, puis on fustige, puis on est indigné de certaines affaires, mais c'est tout le temps drôle. Voilà, c'était nos actus conspi, mon cher Frank.
Après la pause, j'ai encore un petit peu de méchant à sortir, fait que on va sortir ça, puis c'est un sujet dont on n'a pas parlé beaucoup, moi puis Martin, fait que si vous êtes chanceux un petit peu, ben on va peut-être se chicaner. On revient après ceci.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide et la chance de participer au mystique Denis la nuit.
Rire et facepalm garantie.
Il y a eu des fusillades récemment aux États-Unis. Ben, je dis ça, il y en a tout le temps, là, mais il y en a eu des grosses qui ont passé des nouvelles. Là, tout le monde se prononce là-dessus, puis on voit des Américains déchirer leur chemise. Il faut faire quelque chose, gna gna gna. Puis j'ai même entendu que la majorité des Américains seraient en faveur d'un contrôle plus resserré des armes à feu, mais j'ai bien de la misère à le croire. Bien de la misère à le croire. Quand on voit à quel point ils y tiennent et ils aiment ça, puis ils rappellent tout le temps le deuxième amendement, puis c'est donc important, puis à chaque politicien, on sait que pour être élu aux États-Unis, il faut absolument être pro-Jésus américain, là, la version américaine de Jésus, là, pas celui qui aime pas les pauvres, là, pas celui qui aime les pauvres et qui méprise les riches, là, l'autre Jésus, celui qui aime les riches puis qui aime pas les pauvres. il faut être pro-Jésus, pro-Dieu, il faut le dire, mais aussi il faut être pro-gun dans la plupart des États, parce que si tu t'affiches pas pro-gun, t'es anti-gun, donc anti-liberté. Tu sais, j'ai bien de la misère à croire ça. Puis à toutes les fois où il y a eu des tentatives de resserrement du contrôle des armes à feu, c'est un mur en béton armé qui frappe les gens qui s'aventurent sur ce combat-là. Barack Obama lui-même en avait fait un enjeu, puis avait dit qu'il allait mettre ça à jour, puis qu'il allait agir, tout ça, après Sandy Hook. Combien de morts dont Sandy Hook? Quelque chose comme 26, une affaire de même. Épouvantable. Et puis, OK, il s'est exprimé, puis il y a du monde qui l'ont applaudi, mais qu'est-ce qui est arrivé depuis? Rien. À toutes les fois qu'arrive une tuerie épouvantable, Columbine, peu importe, comme celle qu'on vient de voir, ben là, ça crie partout, puis à TV, tout ça, puis ah, il faut faire quelque chose. Mais dès qu'on commence à vraiment faire des démarches pour changer les choses, on se rend compte que le lobby des armes à feu est beaucoup trop puissant et que le peuple américain lui-même ne veut pas qu'on touche à ses armes, pas plus qu'ils veulent qu'on touche à leur Jésus. C'est le pays de l'hypocrisie, les États-Unis. C'est un pays qui a longtemps été un exemple de liberté pour le monde, qui a été un des premiers pays fondés sur une base de laïque, tu sais, de séparer la religion et l'État. John Adams, entre autres, puis d'autres pères fondateurs, pour eux autres, c'était clair que la religion et l'État allaient pas ensemble. Ils se sont un peu inspirés de la laïcité à la française, mais ils l'ont inversé, ils l'ont compris à l'envers. En France, c'est la religion a pas d'affaire dans les choses de l'État. Ça, ils ont réalisé ça, ils l'ont appliqué et je pense que ça se tient bien. Les Américains, eux autres, ils ont fait le contraire. C'est le gouvernement n'a pas d'affaires dans les affaires religieuses. Tu sais, ils ont viré le pouvoir de bord. Tu sais, c'est comme si, plutôt que de protéger le public et le gouvernement de l'influence religieuse, ils ont voulu protéger la religion de l'influence du gouvernement. Résultat, ils sont pas laïcs pantoute. Les États-Unis, c'est une théocratie. Puis pourquoi je dis ça? Dans les faits, c'est une démocratie. Mais moi, je dis théocratie, c'est-à-dire un règne inspiré par Dieu, par la religion, parce que ne sera jamais élu un candidat qui ne s'affiche pas ouvertement religieux. Un candidat qui serait athée a moins de chances de se faire élire qu'un candidat qui est un violeur prouvé, accusé, reconnu coupable. Ça a été démontré, là. Il y a des sondages qui démontrent ça. Que si t'as été un violeur, t'as été reconnu coupable, tout le kit, t'as plus de chances de te faire élire que si tu t'affiches comme étant athée. Donc, tous les représentants sont ou font semblant d'être croyants et de triper sur la religion. C'est un prérequis pour être élu. Il faut ici être pro-armes parce que ils sont pas fous, ils savent que les votes viennent du public, puis le public, quand ils écoutent, ben Colin, ils sont très attachés à leurs armes, puis ça je pense que c'est en grande partie à cause de la propagande dont ils font l'objet. Tous les pays font de la propagande un petit peu. T'sais, nous autres, c'est du nationalisme, un peu, souverainisme, mais c'est faible au Québec. Il n'y a pas vraiment beaucoup de propagande. Et il y a des lois qui empêchent aussi les instances religieuses ou des lobbies d'influencer des enfants. Il n'y a pas de publicité qui existe visant les enfants. Tandis qu'aux États-Unis, tu sais, il y a pas de limite à rien. La liberté d'expression est sans limite. Puis tu peux aussi bien voir une pub de « Hey, regardez notre nouveau AK-47 avec une poignée plus petite pour votre gaminet de 10 ans qui apprend à tuer! » Tu sais, ils peuvent le faire, tu sais, il n'y a pas de limite. Fait que, tu sais, c'est un petit peu hypocrite. Puis à quel... Tu sais, que je parle beaucoup du culte des armes aux États-Unis parce que, au-delà du contrôle des armes à feu... Malheureusement, je pense pas que si on resserre le contrôle, ça va vraiment changer grand-chose, parce que c'est quelque chose de culturel. C'est à la culture qu'il faut s'attaquer. Puis peut-être que le second amendement, il serait dû pour être mis à jour, genre « delete ». Tu sais, les amendements, là, tu sais, la Constitution, « Oh, touche pas à la Constitution, c'est sacré !» Attends un peu, c'est pas le doigt de Dieu qui a écrit la Constitution, c'est des humains. Puis s'il y a des amendements, c'est parce qu'on y a touché à la Constitution. L'amendement, c'est ça, à moins que je me trompe, là. C'est que, OK, voici les articles de la Constitution, mais attends un peu, là, ça, on va faire un amendement pour clarifier ça, ou pour, tu sais, parce que dans ces cas-ci, ça... Bon, ben, Chris, on peut-tu amender le second... second amendement ou juste le flusher maintenant qui, tu sais, c'est, je suis allé lire un peu la Constitution en diagonale, là. C'est vraiment, écrit dans une dynamique de pays en guerre contre lui-même et contre l'étranger, puis c'est vraiment ça la dynamique que tu ressens en lisant ça. C'est un document genre de sortie de guerre, là. On pourrait peut-être le mettre à jour. Puis on pourrait peut-être aussi commencer à s'intéresser à quel genre de culture on met dans la tête des enfants. Depuis l'enfance, c'est le culte des armes, de la violence, tout ce qui tout ce à quoi ils sont exposés. Il y a tout le temps une petite partie de violence, de gun, de power. Juste quand on a grandi là au Québec, les émissions qui venaient de la France ou produites par le Québec, tu sais, ça s'adressait à l'imaginaire, au développement de l'enfant, apprendre la valeur de l'entraide, comment être une bonne personne. Pis ceux qui venaient des États-Unis, c'était G.I. Joe! Oh, brave American fighting to protect the liberty! T'sais, pis c'est des gugus de même, là, t'sais. Ils sont nés là-dedans. Dans la Constitution, on dit, d'ailleurs, j'ai croisé ça m'a surpris. C'est pas ce que je cherchais, mais apparemment que la prière n'est pas permise dans les écoles. Et puis, sauf que, il y a comme une exemption, la prière au drapeau, celle-là, ils ont le droit. Dans beaucoup d'écoles américaines, sinon presque la totalité, les enfants font leur pledge of allegiance, là, ils prêtent allégeance au drapeau américain à l'école. C'est de la calisse de propagande sale, gros comme le bras, là. C'est pas juste du petit patriotisme normal, là. Pour eux autres, ça leur apparaît normal. Puis j'ai commencé d'ailleurs sur YouTube, je suis tombé sur beaucoup de capsules c'est des espèces de c'est une espèce de série de capsules que tout le monde reproduit, tout le monde reprend, puis ils font à leur sauce. Puis il y en a beaucoup que c'est justement des Américains qui ont voyagé à l'étranger ou qui vivent à l'étranger. C'était quoi leur plus gros choc culturel quand ils racontent ça, là, qu'ils faisaient leur serment d'allégeance à l'école, au drapeau, tout ça. C'est en allant à l'étranger qu'ils se rendent compte que, Christ, comment ça se fait qu'ils nous font faire ça? C'est bien ridicule. Tu sais, c'est les Américains qui voyagent ailleurs puis qu'après ça, ils commandent. Je pense que la série de vidéos, ça s'appelle genre « When you realize America fucked you up », une affaire de même. Puis là, je vois des Américains témoigner, tu sais, qui sont allés à l'étranger, puis il faut vraiment aller à l'étranger pour s'apercevoir que c'est pas normal de triper tant que ça sur son pays, c'est pas normal de triper tant que ça sur les armes à feu, c'est pas normal de tout le temps vouloir que le pays soit en guerre. À un moment donné, il y avait un vox pop, puis je me rappelle plus, je pense que c'est-tu Jay Leno, peu importe, ça fait un bout de temps, là, un show de fin de soirée, demandait au monde si... Hey, pensez-vous qu'on devrait bombarder, je me rappelle plus du nom du pays là, dans Marvel, là, Black Panther, là, un pays africain qui n'existe pas, là, tu sais.
Wakanda.
Le Wakanda. Est-ce qu'on devrait bombarder le Wakanda? Puis les Américains à qui posaient la question sur la rue, ils savaient pas c'était quoi le Wakanda. Ah oui, définitivement. ça fait longtemps qu'on les surveille. Puis c'est tout le temps oui, esti. C'est tout le temps oui. Est-ce qu'on devrait attaquer l'Iran? Ouais. Est-ce qu'on devrait attaquer la Palestine? Ouais, mais hein, depuis le temps que hey. La Corée du Nord, ouais, on devrait tout bombarder ça. Wakanda aussi. C'est des méchants. C'est des démoniaques. C'est tout le temps oui. Ils ont été élevés dans cette dynamique-là. C'est leur culture profonde. Fait qu'après ça, faut pas surprendre quand on parle de réglementer les armes qu'on les voit ruer d'un brancard. On leur a appris toute leur vie que Dieu leur a donné le droit de se protéger qu'un gun, puis que ça te prend un gun. Puis pourquoi ça prend un gun? Parce que tout le monde a des guns. Puis ça, c'est parce que y a plein de monde qui sont dangereux qui ont des guns. Fait que ça nous prend des bonnes personnes avec des guns. Fait que, tu sais, c'est... Plus qu'il y a de guns, plus on est safe. Ça fait autant de sens que plus qu'il y a de bière, moins on va être sous. Plus qu'il neige, moins il va y avoir de neige. Puis d'ailleurs, le summum de ça, ça a été le commentaire du sénateur du Texas après la tuerie qu'il y a eu dans son propre état, là, dans une école. Ted Cruz, qui est sénateur, c'était quoi, lui, sa solution à ça? C'est un républicain, fait qu'évidemment que c'est pas réglementer les armes à feu ou sensibiliser les gens, ou ben non. Cet hostile génie-là, il a trouvé la solution. Il faut plus qu'il y ait de portes de derrière débarrées dans les écoles. Il faut que toutes les portes de l'école soient barrées hermétiquement, puis qu'il y en ait juste une ouverte en avant avec un ou deux gardes armés avec des guns prêts à tirer les intruders d'en face. Ça, c'est la bonne solution. Plus de violence! Il faut transformer les écoles en prisons hermétiques tellement que les pompiers pourront pas rentrer s'il y a un incendie, puis les enfants pourront pas se sauver si le feu pogne.
Mais ce qui... Non, ils vont avoir une clé, Frank, voyons!
Oui, ouais, mais c'est le feu pogne, puis les pompiers l'auront pas à clé là, pour rentrer là, par la porte pour avec leur extincteur ou pour aller voir. Non, c'est pas grave. Il va falloir qu'il fasse le tour puis qu'il explique au gardien de sécurité « Ouais, gars, ma hache, là, c'est parce que je suis un pompier, tire-moi pas dessus. » Tu sais, c'est sa solution, c'est juste plus de guns. À toutes les fois que tu demandes à Sacha Baron Cohen, celui qui fait Borat et plein d'autres personnages, a fait une série. Je me rappelle plus c'est quoi le nom de son personnage. Il fait une espèce de spécialiste de combat israélien puis... Puis il réussit à prendre genre un gouverneur ou un sénateur, quelqu'un de haut placé, quelqu'un qui touche au pouvoir, puis il est en train de convaincre de jouer dans une espèce de vidéo pour faire pour que les enfants de 5 ans aient des armes à feu dans les maternelles pour tuer les méchants qui pourraient venir les tuer. Puis lui, il trouve ça sensé, là. Puis là, tu sais, puis il pousse ça à l'extrême, là. Tu sais, tu dis, à un moment donné, le sénateur, il va se rendre compte que c'est ridicule puis qu'il se fait niaiser, là. Rendu au toutou, au gun toutou. Puis là, oh, monsieur 45, quand il y a un méchant qui arrive, qu'est-ce qu'on prend? On prend monsieur 45, on pointe monsieur 45 vers le ventre du méchant monsieur, puis on tire avec, on pèse sur le piton de monsieur 45 pour que le monsieur méchant, il arrête d'être méchant. Pour lui, c'est normal, puis pour plein de monde, tu sais, des hosties de fous, des Joe Arpaio, puis les Américains sont gouvernés par des hosties de psychopathes, puis c'est eux autres qui les mettent au pouvoir parce qu'ils sont eux-mêmes des hosties de psychopathes. Là, OK, vous allez dire que je fais des généralités, c'est pas que les Américains. Oui, c'est vrai, je fais des généralités, je regarde les Américains en tant que peuple, puis quand tu leur parles des armes à feu, ben, Callis, c'est quand t'es écoutes parler, c'est Dieu qui leur a mis ce gun-là dans les mains, puis tu vas m'les enlever from my cold dead hand. Tu sais, c'est d'ailleurs, tu sais, c'est tellement déconnecté que quelques jours après la tuerie au Texas, ils ont fait leur party de la NRA pour vendre des guns, faire des speeches pour guns. Donald Trump y est allé pour expliquer que c'est pas les guns le problème, c'est hot. Puis c'est vrai que c'est pas tant les guns le problème. C'est pas le fusil qui tue quelqu'un. C'est celui qui le tient. Mais celui qui le tient, il est brainwashed depuis l'enfance à penser que si quelqu'un te vole ton bicycle, t'es en droit de l'assassiner avec ton gun. C'est ça leur dynamique. C'est comme ça. J'ai même vu un humoriste qui se fait heckler, là, puis il invite le heckler. « Ah, viens t'as sur le stage, me dire ici. » Puis quand le gars arrive sur le stage, l'humoriste sort un fucking gun, puis il pointe. Il met la vie d'un heckler en danger juste pour montrer qu'un gun... Sacrament, c'est rendu où, là? Il y a des vidéos de gens qui essayent juste de se faufiler sur l'autoroute pis sont pas capables parce que personne leur laisse de place. On vit tout ça, là, si on passe à Montréal, à Québec. Mais tu vois du gun, du monde qui sort leur gun de la fenêtre, tu me laisses-tu passer, tabarnak? Ils règlent tout de même! C'est leur culture! Fait que... changez les lois, si vous voulez. Ça changera rien tant qu'on débattira pas le brainwash qui a cours aux États-Unis sur le patriotisme des armes à feu, puis la guerre, la violence en général. Mais le pays est bâti là-dessus. Pour eux autres, les guns, c'est comme le sirop d'érable pour nous autres. On en a des réserves, on en a des millions de litres, peut-être pas des millions, mais on en a beaucoup plus qu'on peut consommer nous-mêmes, parce que c'est nous autres qui le fait, on est fiers. Mais c'est du sirop. Eux autres, c'est la même chose, mais avec des guns. Vas-y, Martin, après ça, je vais te donner des chiffres qui sont épeurants et qui témoignent de ce que j'explique.
Ben, je veux juste faire, évidemment, un peu de pouce sur tout ce que tu as dit. Tu disais, on va peut-être se pogner. Non, on se pognera pas. Je veux te dire quatre affaires. T'sais, la première, moi, au centre de tout ce débat, quatre ou cinq affaires. Au centre de tout ce débat-là, il y a le fait que, de toute façon, cet amendement-là, Il est vétuste, il est caduc. Il a été, l'amendement s'est produit à une époque où the right to bear arms, c'est un fucking mousquet que ça prenait 25 minutes à reloader. Tu sais, ouais. Fait qu'il y a des tueries comme il y en a eu, c'est physiquement impossible. À moins que tu débarques 200, vous avez chacun une shot. Ça, c'est la première affaire.
Puis la deuxième affaire qui s'adonne ce jour-là. Là,
ah ouais, la deuxième affaire, c'est que, puis écoute, je vais citer quelqu'un que avec qui je suis pas toujours d'accord, mais c'est Jim Cornette, c'est un gars qui a gagné sa vie dans le monde de la lutte, mais qui a beaucoup d'opinions, puis qui déteste Trump, puis qui déteste les républicains, puis qui déteste les guns, puis les anti-gays, puis tu sais, lui, il dit
un progressiste.
Ça arrivera jamais là, ce que je vais raconter. J'aime juste son propos, mais c'est impossible. Mais tu sais, il dit, tu sais, mettons là que tu veux trouver le mi-chemin pour faire en sorte que tu sais, si tout est basé sur le right to bear arms, puis pour te défendre, puis tout, pourquoi que le nombre maximum de coups qu'il y aurait pas dans un gun, ça serait 6? Tu sais, regarde ça mathématiquement. Il y a une crise de différence entre un 6 coups et un AR-15, là.
Tu sais, si tu t'installes...
Non, je comprends ton point. Moi, je te dis que tu de toute façon, c'est totalement utopique de penser qu'à un moment donné, tu vas la faire changer, cette affaire-là. Ils vont toujours dire non. Fait que là, ben, quand tu peux pas gérer le processus, qu'est-ce que tu fais? Tu gères l'humain. Parfait. Il n'y a rien à faire. Bon, ben, gars, ça va être 6 shots puis that's it. Ben oui, tu vas me dire, le gars peut arriver avec 4 guns puis tout, puis ça règle pas le problème qu'ils vont tout régler avec ça. Oui, sauf que tu vas sauver plus de fucking vie, Frank, à la fin de la journée, parce que de faire amender ça ou réamender ça, ça arrivera pas. Deux autres points rapides. Tu sais, c'est tellement associé à la masculinité, les guns, aux États-Unis, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les films. Tu sais, tu peux être un badass... Si t'as un gun.
Ah, un phallus qui crache du feu.
Voilà, tu sais. Mais là, je vais te parler de deux personnes. Et si vous voyez de la misogynie là-dedans, ben envoyez-moi une mise en demeure. C'est juste... Moi, j'essaie juste d'illustrer le point que je fais et son inverse pour démontrer que le badassness est souvent associé au gun. Et être badass, c'est pas une affaire de gars pis de fille. Je te parle de... Évidemment, on la connaît toute. Marjorie Taylor Greene, qui est de la Géorgie. OK? Lorsque la dernière tuerie s'est produite, je te fais ça traduction sur la mouche, là. Aujourd'hui et tous les jours, nous sommes en 1776. Ne cédez jamais nos libertés. Ne laissez jamais la gauche nous la voler. Soyez un cerbère sur le mur et soyez toujours à l'affût à chaque minute, à chaque seconde, parce que la gauche n'arrêtera jamais d'essayer de détruire nos croyances, nos familles et nos libertés. OK? Et écoute bien, un petit peu plus tard, suite à la tuerie, cet homme a ouvert le feu sur un groupe de personnes avec une arme à feu qu'il possédait illégalement. Et l'héroïne qui a arrêté ça, c'est une femme qui avait une arme à feu légale. Il n'y a pas eu de loi, de drapeau rouge, de bannissement des armes à feu. Peut-être même que la police aurait pu l'arrêter. Mais c'est une brave citoyenne qui avait un gun qui l'a fait. Comprends-tu le badassness toujours associé à ça? Marjorie Taylor Greene qui fait ses annonces, qui tire la mitraillette, tu sais, tout ça. Et là, je t'amène à une autre représentante républicaine de la Chambre. Et là, je te parle de la... Écoute, Lauren Boebert, écoute ça, là, OK? Elle, là, elle a un mari, elle est du Colorado, OK? À un moment donné, son mari, en 2013, il a perdu sa job. Ils ont ouvert un restaurant. Tu sais comment il s'appelle, le restaurant?
Je sais pas. Guns N' Roses.
Le Shooter's Grill. Et sais-tu dans quelle ville est situé le restaurant? À Rifle, Colorado. Et je te cite ses propos.
Quand suite je dis c'est dans leur culture.
Ouais, et je te cite ses propos suite à la fusillade. À, je sais pas si je vais le dire. C'est Uvalde, là. Je sais pas si je dis le nom comme. Ses propos sont les suivants. Lorsque le 11 septembre s'est produit, nous n'avons pas interdit les avions.
Ouais,
ça, c'est une élue, là.
C'est une républicaine, puis c'est une politicienne américaine. Tu sais, elle n'a pas besoin d'être brillante ou ses affaires n'ont pas besoin d'être, se tenir. Elle a juste à être pro-gun, pro-Jésus. C'est désolant de voir ça.
C'est pas mon point, Frank. Mon point, c'est que, oui, j'aurais dit, je vous aurais, tu sais, probablement que le monde en train de nous écouter, de nous regarder, là, j'aurais juste dit les propos, puis il y en a un grand pourcentage qui nous aurait dit de qui il s'agit, tu sais, parce que justement, c'est une républicaine et que, tu sais, ça s'inscrit dans le préparez-vous, le narratif, tu sais, du In Gun We Trust. Sauf que mon point est pas là. On le sait tous qu'ils sont tous pour ça, puis ils vont tous dire la même maudite affaire, puis il y a le lobby des armes dont on n'a pas parlé, t'as parlé de la NRA tantôt, mais c'est une organisation qui n'existe que pour faire la promotion de ça. Sortez-moi Charlton Heston tant que vous voudrez, From My Cold Dead Hands, rappelez-vous de Fahrenheit, Bowling for Columbine, rappelez-vous de tout ça. Mais tu sais, c'est fait, tu l'as très bien illustré. Tu sais, je fais un gateway, un segue avec nos propos de la semaine passée. Si on pensait comme eux autres, ben on pourrait probablement dire qu'il existe maintenant une nouvelle race d'humains. T'sais, moi pis toi, on n'est pas d'accord avec le terme. Pis on les appellerait des gunners.
Ah oui, ben oui.
C'est du monde qui ont tous ceci en commun, peu importe la couleur, peu importe. Mais eux autres, ils pensent que la dernière ligne de défense qui devrait être légalisée, c'est que tout le monde devait se promener avec des guns. Puis selon eux, si tout le monde avait un gun, ça se tirerait moins dessus, comme tu as dit tantôt.
What stops a bad guy with a gun? A good guy with a gun. Tu sais, c'est comme ça, c'est leur logique. Je veux dire, c'est tout est sur la confrontation. C'est un pays qui s'est bâti sur la guerre, puis qui vénère la guerre, puis que tout c'est la solution à tout. Ah, il y a beaucoup de pauvreté. War on poverty! En fait, c'est plus war on poor people, mais politiquement, c'était war on poverty. Puis là, pour ça, oh, la drogue, c'est un problème. War on drugs! C'est juste war, gun, war, yeah, gun, shoot, bad guy! C'est juste ça. C'est toute une gang de petits cowboys de mongols, collectivement. Okay. Puis quand je voyais ces capsules-là d'Américains expatriés raconter des anecdotes, il était dans leur, tu sais, du monde qui sont allés étudier ailleurs. Il y en a une qui est genre en Écosse, tu sais, puis à un moment donné, il y a eu un bruit, tu sais, quelque chose qui est tombé à terre, ça fait pow, puis c'est pitché en dessous d'un bureau parce qu'aux États-Unis, quand ça fait pow, c'est parce que tu te fais tirer dessus, puis tout le monde riait d'elle, puis elle dit, c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'était anormal mon comportement, puis à quel point c'était anormal qu'on soit si drillé à avoir peur des guns, puis à vivre dans une société pleine de guns, puis de à toutes les fois que ça fait pow, c'est des guns, là. Tu sais, puis c'est pas la loi le problème. C'est la culture. Mettez les lois que vous voulez. Ils vont y cacher leurs guns. Pis ça marchera pas. Quand même qu'ils voudraient les interdire, ils réussiront pas. Parce que c'est comme s'ils voulaient interdire la religion. C'est leur Jésus, leur gun, c'est dans leur cœur. Ils ont été élevés là-dedans. Ils sont brainwashed depuis l'enfance à penser que c'est normal, puis que c'est légitime, puis que tout le monde devrait en avoir un gun, puis que Jésus leur donne ce droit-là, Jésus américain. Tu sais, fait que pour eux autres, tu peux mettre les lois que tu veux. Ça va juste faire des émeutes avec plus de guns. Le problème, il est culturel. Puis puis il y a personne qui va y remédier parce que la droite est toujours plus forte. La religion est, les Américains c'est un peuple fanatique, là. Je veux dire, la religion est partout, omniprésente, partout, pareil comme en Iran avec les musulmans, là, avec l'islam. Les États-Unis c'est à ce niveau-là, là. C'est du fanatisme religieux, là. Fait que quand même que tu mets, peu importe quelle loi, pour eux autres, il n'y a rien qui est au-dessus des lois de leur seigneur, puis leur seigneur, ben, il leur permet. D'ailleurs, le preacher, il y en a un gun, puis il y en a plusieurs guns, puis il raconte, puis il est fier, puis il fait des vidéos de lui qui tire sur ses cibles avec ses guns. Le preacher, le représentant de Jésus, paix sur terre, là. Mais c'est bon.
Tu devrais voir les photos de Lauren Boebert, tu sais, c'est débile, là. Tu sais, c'est une très jolie dame. Elle est toujours, tu sais, casquette Make America Great Again ou juste 45. Elle a le fusil à côté d'elle, strap, le holder avec la strap attachée après sa jambe, au Shooter's Grill, là, le restaurant, tu sais, on dirait c'est comme Hooters mais les filles ont des guns.
Ouais, c'est ça, c'est Shooters.
Hallucinant, là. Puis là, ben l'autre problématique qu'on tu sais, je pense qu'on va vériter de la palisse, c'est que ben là les gun lovers, ben c'est très rare qu'ils viennent avec juste un ingrédient. Ils sont anti-avortement, sont Jesus freak, sont anti-immigration.
Il y en a des progressistes en Californie, là, puis un peu partout aux États-Unis, là, peut-être moins au Texas puis au Tennessee, là, mais si tu sors de la Bible Belt, il y en a beaucoup d'Américains progressistes, puis il y a beaucoup d'Américains plus progressistes que nous autres. mais ils s'approchent pas du pouvoir. Puis ça s'approcheront jamais parce que la majorité compte eux autres. La majorité est brainwashée. Puis ce brainwashage-là qui est culturel, qui est à la TV, qui est dans les nouvelles, qui est à la politique, qui est dans le divertissement, qui est partout, va toujours supplanter la gang de progressistes. Les Américains, les États-Unis ont été la lumière du monde pendant un bon bout de temps parce que c'était justement les plus progressistes. Société laïque, toute la patente. Mais ils se sont pervertis avec le temps, puis ils sont devenus une espèce de théocratie, gun-crazed maniac. Puis les chiffres en témoignent. Hein. En moyenne, à chaque année, il meurt 40 000 personnes des armes à feu aux États-Unis. 111 personnes par jour perdent la vie par arme à feu aux États-Unis. Au Texas, 3647 morts par année par arme à feu. Depuis le début de l'année, aux États-Unis, 7629 personnes ont été tuées. Depuis 2012, combien qu'il y a eu de fusillades? Ben, admettons, on continue dans notre tête pour le fun, mais des fusillades importantes. Une fusillade, là, et tu sais, mass shooting, là, c'est plus que 4 morts, là. Puis, ben, OK, mais ça, c'est pas les fusillades. Oui, c'est ça. C'est toutes des fusillades de masse. Donc, depuis 2012, c'est-à-dire depuis Sandy Hook, mettons, je compte dans ma tête le nombre de fusillades qu'il y a eu aux États-Unis. Je vais arrêter là parce que je lis le chiffre. C'est 3865.
Ça n'a pas de sens.
3865 fusillades de masse. C'est aussi culturel pour eux autres que le sirop d'érable pour nous autres. On dirait que c'est le nombre de litres de sirop d'érable qui ont été consommés d'un cabane à sucre en 10 ans. Là. Mais eux autres, c'est des fusillades de masse. Pas des meurtres, pas des victimes. Des fusillades. Plusieurs victimes potentielles par événement. Là. 311 000 étudiants qui ont été victimes de violences par arme à feu depuis Columbine en 99. Dans 331 écoles américaines qui ont été touchées. C'est fou, là. Après, c'est dangereux d'aller à l'école pour un Américain, pour un enfant américain. La fusillade de mardi, là, au Texas, c'est la 27e en milieu scolaire depuis le début de l'année. Juste depuis le début de l'année.
Ça n'a aucun sens. C'est parce que tu penses-y, Frank, c'est-tu la tu sais, je m'excuse de la terminologie que je vais utiliser d'avance, là, mais tu sais, une école, c'est le low-hanging fruit de celui qui veut tirer dans un tas de monde. Là. C'est ouais, des enfants, ils vont être plus faciles à paniquer. Tu sais, ils vont...
Fish in a barrel.
Ben oui, c'est exactement, là. C'est complètement débile. Puis là, deux secondes, je te coupe, je suis désolé, parce qu'il y a des All-Stakers qui posent la question. C'est elle qui a parti la fameuse mode aux États-Unis de prendre des photos de Noël avec des mitraillettes. Oui, c'est elle. Elle a publié une photo de sa famille. Elle est devant le sapin de Noël. Elle a 4 enfants. Les 4, ils ont une mitraillette dans les mains puis les beaux sourires.
Jésus est tellement fier quand il voit ça. Il y a eu, juste en 2022, là, on s'entend-tu que ça fait juste 5 mois qu'on est en 2022, là? Donc, dans les 5 derniers mois, c'est 647 mineurs qui ont été tués par balle et 1594 blessés. Des mineurs, là. Il y a, sur les 600 mineurs tués, il y a 140 de ces victimes-là qui avaient moins de 11 ans. Ça se tue bien.
Ça n'a pas de sens.
Ça se tue bien les enfants.
Mettons, tu veux poser
dans la classe, t'as qu'à mitrailler à l'aveuglette.
Ah oh, ouais, c'est ça. Mettons, tu veux poser la question. Tu veux dire, OK, s'il y avait eu de la législation plus ferme sur les armes à feu aux États-Unis, on peut pas y répondre. Là. Je la pose de même là pour le besoin de l'exercice. On peut pas y répondre. Mais si ça avait été légiféré plus fermement, combien de ces 100 quelques enfants-là, ou du total complet, parce que là, c'était juste 11 ans et moins, ce que tu viens de dire, combien qu'il y en a, on pourrait prétendre qu'il y en a eu de sauvés? Moi, je veux juste qu'il y en ait un, là.
Mais Martin,
c'est assez, là.
C'est illégal de tuer des enfants. La loi est correcte, là. C'est illégal. T'as pas le droit de tuer des enfants. Puis honnêtement, quand même que le AR-15, qui est semi-automatique, était interdit, là. Je vais revenir sur ton point de tantôt. Une arme de poing, là, OK, un 9 mm, mettons, là. OK, tu tires, je sais pas combien il y a de coups là-dedans, 6, 8, peu importe. Pow,
jusqu'à 24, là.
OK, mais peu importe, OK. Mettons que moi, je n'ai 8. Pow, 8 fois. je pèse un piton, chargeur tombe, j'en mets un autre. Pa, pa, pa. Tant que je veux, tu peux avoir des chargeurs plein et poche, tu sais, ça changera rien. Ouais. Puis même si les armes sont illégales, c'est facile illégalement aussi d'en avoir. Tu sais, la preuve, c'est qu'au Canada, là, puis là, d'ailleurs, François Legault, au lendemain de la fusillade aux États-Unis, François Legault demande à Ottawa de resserrer le contrôle comme si ça avait un lien quelconque ou comme si ça allait changer quoi que ce soit. Probablement, je n'ai pas vraiment de problème de violence par arme à feu au Québec, là, tu sais, je dis pas qu'il n'existe pas de la violence par arme à feu, mais ça reste que c'est rare. Et puis, les armes, personne n'a le droit de se promener avec un gun, là. Mais ça arrive pareil, parce que souvent, c'est du crime, les fusillades, là, c'est souvent le crime organisé, là, eux autres, ils s'en crissent-tu que le gun soit illégal ou non, ils vont l'avoir pareil, là, puis d'ailleurs, ça m'étonnerait qu'ils l'achètent chez, je pense pas que le gars qui travaille pour les motards ou ben pour une gang de rue, peu importe laquelle, il s'en va au La Tulipe, puis il va avoir un gun enregistré, ben non, il achète un morceau dans la rue, il paye 500$, il a son morceau avec ses balles, puis il fait ce qu'il veut avec. Fait que plus de contrôle, ça changera rien. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va gâcher le loisir de gens responsables qui font du tir sportif ou bien de la chasse. Puis quand je croise quelqu'un qui dit « Oh, on devrait toutes les abolir, ça devrait tout être illégal au Canada, ben, t'as pas des armes à feu, puis c'est pas justifiable qu'on ait des armes à feu », je suis pas d'accord avec ça. Puis ça, c'est vraiment une perception de citadin, là. Ben, je comprends que si tu vis à Montréal, ta relation avec les armes à feu, c'est juste la violence, OK? Parce qu'une arme à feu, à Montréal, ça sert à des criminels puis à la police, OK? C'est à ça que ça sert. Mais partout ailleurs qu'à Montréal, il y a des chasseurs, puis il y a des gens qui font du tir sur cible, puis c'est pas des gens violents, puis c'est pas du monde qui sont susceptibles de tuer d'autres humains, là, tu sais. Fait que moi, je pense pas qu'on devrait, tu sais, puis quand même que c'est ça, si t'interdis ça, ben OK, ces gens-là pourront plus pratiquer leurs loisirs paisibles et pacifiques, puis les criminels vont quand même en avoir des guns. Fait que tu règles absolument rien. Le problème, la raison pour laquelle on n'en a pas de tuerie de masse ici, là, ça arrive jamais, là. Ça, OK, il y en a eu, mais c'est quand même assez rare, là. Il y a eu le plus récent, c'est la mosquée à Québec, 6 morts en 2017. La pire étant celle de 1989, à moins que j'en oublie, là, qui est 15 morts. Mais sinon, tu sais, c'est...
Je vois que ça se qualifie, t'as eu le gars à Ottawa, t'as eu Denis Lortie,
Denis Lortie, y a-tu tué quelqu'un, Denis Lortie?
Non, oui, il me semble que oui, là.
Mais il a pas ouvert le feu d'une école puis tué plein d'enfants, tu sais. C'est un illuminé qui avait une maladie mentale puis qui est allé, tu sais, tirer son dentier à l'Assemblée nationale puis s'est fait raisonner par le gendarme qui était là, qui a été d'ailleurs héroïque. La tuerie de Dawson Kim Virgil, c'est pas un shooting, c'est pas un mass shooting, il y a eu deux morts. Une victime, puis lui qui est mort. Fait que c'est un meurtre, OK? C'est un meurtre, là. Mais je comprends qu'il essayait, il avait sûrement l'intention de le faire, de tuer plus qu'une personne. Mais je veux dire, c'est pas un phénomène qui est alarmant. Puis il va tout le temps avoir un fou de temps en temps. Il y a rien qui peut nous prémunir de ça. Aux États-Unis, on n'est pas à ce niveau-là, là. C'est tellement culturel. C'est une façon de devenir célèbre. C'est une façon d'être une star. Puis d'avoir son documentaire sur Netflix. D'ailleurs, je comprends pas ça, cette fascination-là. Pour écouter des documentaires sur des... Oh, John Wayne Gacy, je vais écouter une série de 4 documentaires qui nous expliquent à quel point c'est un institutoire. Chris, je veux pas critiquer le monde qui consomme ça, mais je trouve que ça vient glorifier ces gens-là. Ils deviennent des légendes, ils deviennent des vedettes pour avoir tué du monde. Puis moi, je pense que ça, c'est un incitatif.
Je pense pas que tout le monde écoute ça parce que pour eux, ça les glorifie, là.
Eux autres, OK, ben non, mais moi, je pense qu'au-delà du « Ah, c'est intéressant, la psychologie derrière les tueurs. » OK, mais une fois que tu en as vu deux, là, t'as compris la psychologie derrière les tueurs, là. Moi, je pense que c'est du voyeurisme plus que d'autres choses. C'est du voyeurisme macabre plus que d'autres choses. Tant qu'à ça, va sur ogrish.com ou je sais pas quoi, les sites qu'on allait voir quand on était ado pour voir du monde qui se sont fait exploser à la face, puis « Ah, c'est dégueulasse. » Mais en tout cas, je ne comprends pas cette fascination-là, puis qu'on le veuille ou non, ou puis qu'on l'accepte ou non, ça glorifie ces gens-là, ça en fait des vedettes et des légendes, puis il y a du monde avec des chandails, avec des tueurs en série dessus, parce que c'est donc cool. Ben moi, je trouve pas ça cool. Puis quand je regarde les chiffres aux États-Unis, puis je regarde comment ces gens-là sont... créer des exemples, puis qu'il y en a qui veulent... Puis ça a été démontré, il y en a qui veulent accéder à la célébrité en faisant ça. Ils s'en foutent de sacrifier le reste de leur vie en prison ou d'en mourir. Ils veulent être des livres d'histoire. Puis tout ce que ça coûte, c'est une coupe de balle dans leur gun favori parmi leur panoplie d'armes. Hein? Parce que c'est rare que quand t'as un gun, t'en as rien qu'un. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a 120 armes pour 100 Américains. OK? Il y a plus de guns que dans je parle pas, plus là on enlève les policiers puis l'armée là. Il y a plus de guns dans la vie civile qu'il y a de civils, tabarnak là. Ils sont là.
Mais là Frank, t'as peur là. Là je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Moi quand je reviens à l'exemple de la limitation des armes légales au nombre de coups permis par le fusil en question, whatever là. Tu sais, c'est parce que
coup d'épée dans l'eau.
Ça c'est pas une solution pour toi, mais la tienne marchera jamais. Tu ne pourras jamais rééduquer 320 millions de personnes. Jamais, 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 jamais.
Non, mais ce que tu peux...
Pas d'autre.
Non. Attends une minute, là, je t'ai laissé parler, laisse-moi parler. Ce que je te dis, c'est que les problématiques complexes ont souvent les solutions les plus simples. Je te dis pas, ça, je suis pas en train de prétendre que si légalement, des armes à feu pour te défendre que tu pouvais obtenir, c'était du barrel gun puis qu'il y avait 6 coups dedans, whatever. Je le sais, je suis en 1902 quand je dis ça. Laisse-moi aller jusqu'à la fin, là, OK?
Ouais.
Au moins, ce que tu permettrais peut-être de faire, c'est que il y aurait, parce que tu sais, tu vas me dire, ouais, le gars il drop son mag, il reload puis il fait parfait. Si tu vis trop, si, je dis pas que ça marcherait, je m'ouvre les œillères là. Si ça fait en sorte que le nombre, il y a un nombre X de guns, il y a un nombre X ou Y de balles que tu peux tirer avec un gun. Ben regarde, si les gens qui réellement désiraient faire l'acquisition d'une arme à feu de façon légale et que l'objectif réel, c'est pour défendre leur famille, leur personne, leur intégrité physique, invariablement, mathématiquement, tu risques, je dis pas que c'est certain, tu risques de faire en sorte qu'il y ait moins d'armes en circulation. Si c'est vraiment à propos de qu'est-ce qui est pour te défendre, t'as pas besoin d'un AR-15 avec un magasin de 48 balles, là. OK? C'est juste ça. Attends, c'est juste ça, mon point.
Non, mais je vais pas t'interrompre,
Martin. Non, mais je suis là, t'es prête. Ce que je dis, c'est une question que je pose. Est-ce que ça ne serait pas... Parce que l'alternative à ça, elle est impossible. Tu ne changeras pas la culture des Américains pour ça. Overnight, puis pendant qu'ils vont essayer, parce que t'as raison, ils citent, moi, je me sens pas insécure de sortir à Montréal parce que il y a un deuxième amendement au Canada, là, pantoute, là, 0-0. Sauf que il reste que, tu sais, est-ce une solution? Je pense pas. Sauf que, tu sais, c'est toujours la même affaire. Tu sais, combien il y en a des armes à feu qui ont été acquises légalement, qui deviennent des armes illégales, qui sont achetées sur le marché noir, puis que c'est ça qu'on retrouve. Tu sais, puis je veux pas dire non plus qu'il y a pas d'armes à feu légales qui ont pas été utilisées dans des mass shootings. C'est vrai qu'il y en a eu, là, tu sais. Chris, ouvre-toi un compte de banque, on te donne un gun. Tu sais, c'est
ouais, pas inventé. Il y a un documentaire où on a vu un enfant de 13 ans aller s'acheter ouais. une arme à feu dans un marché aux puces. Puis de toute façon, tu sais, c'est tellement... leur culture est tellement pervertie là-dessus que à 19 ans, dans bien des États, tu peux t'acheter un gun puis chauffer un char, mais t'as pas le droit de boire une goutte d'alcool.
Ah non, moi je fais juste dire, gars, c'est une suggestion, on en rejasera, on va avoir des commentaires. Je fais juste dire, mettons que toi, là, t'es un père de famille, t'habites en Arizona, puis que là, ben, ta femme est enceinte, puis tu décides que tu veux la protéger parce que t'es un Américain, t'as des grosses big balls, puis t'es un homme, là.
Ouais.
Tu veux un gun. C'est-tu possible que t'aies pas l'option de t'acheter une arme automatique qui peut tirer 48 balles? C'est rien que ça, ma question. Moi, là, j'ai pas de suggestion de modèle de gun, je connais rien là-dedans.
Moi, j'ai une suggestion, là. Moi, regarde, quand je dis qu'il y a pas une loi qui va changer ça, je le pense, mais ça veut pas dire que je suis contre le fait de resserrer le contrôle. Au contraire. Pourquoi? Parce que si on fait une mesure qui vient restreindre plus le contrôle des armes à feu, peu importe quelle mesure. Non, là, ça, c'est à ton tour, là, pour m'interrompre, là. Peu importe la mesure qu'on prend, quand même que ce serait juste de limer qu'il n'y ait pas de télescope ou ben qu'il n'y ait pas la deuxième poignée. Peu importe, n'importe quelle restriction, OK? Juste des guns orange. Peu importe la couleur, mais au moins, ça témoignerait d'une volonté de vouloir faire quelque chose, puis ça serait le premier pas dans la bonne direction. Mais le problème, c'est que c'est pas la direction qu'ils veulent prendre. Puis
c'est pas juste ça.
Puis quand Obama justement disait qu'il voulait faire ça là, puis ben Colin, il était puissant, Obama, il était influent. Là. C'est allé nulle part. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé au Texas dans les dernières années sur le contrôle des armes à feu? Il s'est encore slacké. Ils ont encore enlevé des restrictions. Fait que, tu sais, moi, je pense que, comme tu dis, on va pas rééduquer 300 millions d'Américains. Par contre, ce qu'on peut peut-être faire, C'est si les médias voulaient agir de façon responsable et pas juste penser à faire des codes d'écoute puis du cash, mais même s'ils sont déjà milliardaires, ça serait peut-être de faire des choix de culturels un peu plus sensés, de dire ah ben peut-être que tu sais pour les, dans nos émissions d'enfants, on pourrait peut-être choisir de diffuser des émissions où c'est pas juste du monde qui se tire dessus puis que c'est pas tout le temps un gun qui sauve la situation ou que c'est pas toujours la violence qui règle les problèmes. Peut-être que les journalistes pourraient couvrir l'actualité d'une façon un peu différente plutôt que de toujours regarder ça le héros avec son gun qui a empêché un voleur de voler une tondeuse en y tirant dessus. Peut-être qu'il pourrait, tu sais, le traiter autrement, en dire est-ce qu'une tondeuse volée valait la peine de tirer sur une personne. Puis mais ils font pas parce que ils vont être impopulaires puis ils vont perdre de l'argent. Fait que si tu veux faire de l'argent aux Américains, avec les Américains ou le public en général ici aussi, tu leur dis ce qu'ils veulent entendre, puis ce qu'ils veulent entendre c'est ça leur culture. Puis si c'était vrai que les Américains voulaient vraiment, parce que là, il y a des sondages, des affaires qui sortent, puis le monde me dit « Ah, mais la majorité, tu généralises, la majorité des Américains, ils sont pour un contrôle des armes à feu. » Mais tabarnak, pourquoi ils votent pour celui qui fait exploser des citrouilles avec son gun en faisant des clins d'œil dans ses pubs électorales, tabarnak? Parce que c'est pas ça qu'ils veulent. Et c'est ça qu'ils veulent quand il y a une caméra puis un micro qui est pointe, puis là, ils disent « Ah, ben moi, je suis contre la violence, tout ça, puis je pense que les armes, ouais, c'est vrai, on devrait peut-être contrôler ça un petit peu. » Mais pas les miennes, parce que moi, j'étais un bon, puis... Mais c'est ça, ça finit tout le temps comme ça. Mais oui, je suis en faveur qu'ils fassent quoi que ce soit qui, au moins, démontrerait un pas dans la bonne direction. Mais à toutes les fois qu'il y a un Américain qui a le courage de faire un pas dans cette direction-là, il se fait tirer à bout portant par les autres politiciens, par les médias, même par les artistes, par les n'importe qui. « C'est nos libertés! » Pis... Fait que malheureusement, on changera pas ça. Puis je pense pas qu'au Canada, il faille resserrer le contrôle des armes à feu. Pour moi, ça, c'est juste un argument électoral pour essayer d'avoir l'air d'un béni oui-oui aux yeux de la population. Là, c'est du... De la flagornerie.
La vraie journée que on verra pas ça de notre vivant, moi pis toi, Frank, parce que comme des gens le disent dans le chat des All Stakers, c'est générationnel aussi, ça va prendre des centaines d'années s'il y a un changement. Sauf que y a le problème, c'est pile ou face. C'est que un, il y a personne qui va proposer ça, qui va se faire élire, de un. Puis de deux, ben la journée qu'il y aura un candidat ou une candidate qui va se présenter, qui va briguer la présidence avec un de ses gros points au programme, ça va être de faire un pas dans la bonne direction par rapport aux armes à feu, puis qui gagne. Mais moi, puis on verra pas ça.
Non, c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis, on va pas rééduquer 300 millions d'Américains brainwashés depuis l'enfance, ni leurs enfants. Mais peut-être que les enfants de leurs enfants, si on commence, je sais pas, dans les écoles, tu sais, à sensibiliser, les médias, puis tu sais, c'est culturel. C'est ça. Mon point, c'est ça, là. Mon point, c'est que c'est pas un problème légal, là. T'sais, c'est un problème culturel. La preuve, c'est qu'ici, on a droit à des armes à feu, puis c'est quand même restreint beaucoup au Québec, là. Mais les armes à feu, il y en a beaucoup, là. Puis des tueries, il y en a pas.
C'est pas, je veux dire, c'est de pas quoi dans notre culture. Vas-y. Comme quelqu'un qui vient du Témiscamingue, là, tu sais, moi, je suis pas un chasseur, mais j'en ai côtoyé beaucoup, puis tout. Puis moi, j'ai jamais fait l'association tripeux de gun chasseur. Au contraire, tous les chasseurs, chasseuses aussi, parce qu'il y en a beaucoup, que j'ai connus, c'est les gens les plus respectueux de ce que c'est d'avoir un permis d'arme à feu. Tu sais, c'est barré. Bon, je te dis pas qu'il n'y a pas de coucou là-dedans, mais je veux dire, c'est barré, c'est pas à la vue. Tu sais, c'est pas comme au Texas que tu te promènes avec un gun rack assis dans ton windshield de ton F-150 avec en arrière. J'ai jamais vu ça avec des chasseurs que moi, j'ai connus. Je veux pas généraliser. Ouais. Il y a des maillets partout. Sauf que, tu sais, tous les gens que j'ai côtoyés, dont qui était chasseur, ben c'était du, tu sais, non, tu touches pas à mon gun, tu sais, c'est comme vraiment sécurisé tout le temps. Fait que j'ai jamais fait l'association. Ben là, je viens, tu t'es mis, alors tu parlais du monde de la ville, puis tu touches pas en désaccord pendant tout avec toi. C'est ça, c'est que à partir du moment, peu importe la raison, que t'es propriétaire d'une arme à feu, tu sais, t'es un mass shooter potentiel, non là.
Mais non,
je
crois
qu'il y a du monde qui dit ça, mais c'est pas le cas. En tout cas, moi, mon expérience de vie à moi, c'est ça. Tu sais, il y en a, moi, mon père était pas chasseur, il y en a jamais eu chez nous, puis tout, puis j'avais plein d'ongles, puis tout ça. Puis eux autres, il y en avait des armes à feu, puis c'était pas sa table, là. Ça veut dire, c'est quelque chose, tu sais, qui est vraiment comme sécurisé tout le temps. Tu sais où ce que c'est, tu touches pas à ça, autour de là. Je pense que mon père a déjà eu une 22, genre, pour aller à la perdrix, puis je sais pas s'il est déjà allé.
Moi j'ai des amis chasseurs, tu sais, notamment dans la région de Québec, puis je les ai accompagnés des fois, puis tu sais, ils m'expliquaient les règles, tu sais, quand ils se promènent dans le sentier, quand ils passent d'un endroit à l'autre, ben le gun il est cassé, comme on dit. C'est-à-dire que, pis t'sais, bon, c'est un fusil, c'est pas une carabine. Une carabine tire un projectile, tandis qu'un fusil va tirer une volée de plomb ou de projectile, ou ben des fois, ça peut être ce qu'on appelle une slug, là, je sais plus c'est quoi le vrai nom en français. Une chevrotine. Mais c'est que le canon, il va être cassé, tu sais, comme ça, tu peux pas tirer accidentellement, tu sais. Il y a personne qui se promène ici avec le chien pré-crinqué, tu sais, prêt à tirer, parce que, il y a ce qu'on appelle des chasseurs en pick-up, là, des chasseurs du dimanche qui se promènent dans les trails en pick-up, puis quand ils voient une perdrix, ils sortent le gun puis ils tirent. Il y en a des tatas, là, qui vont, mais pour vrai, ceux que j'ai vus faire ça, c'était pas comme ceux qui font ça aux États-Unis. Ceux qui font ça aux États-Unis, ils tirent à partir du char. Point, tindoué. Mais attends un peu. Ceux que j'ai vu faire ici, là, j'ai un ami qui fait ça, je ris un petit peu de lui quand il fait ça, mais bon, il se promène en pick-up, mais quand il voit une perdrix, il débarque du troc, il va en arrière, il ouvre son couvre-boîte, ouais, il ouvre le coffre barré, il sort le fusil, il met la balle dedans, la perdrix, elle sauve pas, tu sais, c'est pas, t'as pas besoin d'être très agile et rapide pour tuer une perdrix, t'as juste besoin de pas l'approcher assez pour qu'elle sauve tout de suite. Il sort, il fait sa chasse en cabochon, mais son gun, il est quand même dans le compartiment arrière, dans un chose barré. Tu sais, même nos cabochons sont pas aussi cabochons qu'eux autres, là. Tu sais, je veux dire, ben, c'est sûr qu'il doit en avoir. Il y en a des tatas, là, qui disent, hey, tu fais ça, on met un canisse de gaz dans le feu, puis moi, tiré dessus. Et oui, il y en a des rednecks, des épais, là, c'est certain, là. Mais c'est vraiment une infime minorité, puis ça va être souvent des niaiseries, tu sais, des cascades stupides de tirer sous des affaires, faire péter des patentes. Mais ça va être rarement jouer au cowboy, puis tu sais, ça va être des niaiseries de tata, mais ça va rarement être genre, moi je suis prêt à tirer n'importe qui va mettre un pied sur mon cœur. J'ai jamais vu ça, moi, une pancarte au Québec, genre trespassers will be shot. C'est pas sûr que ça en vendent beaucoup au Rona, là. Mais aux États-Unis, il y en a un maudit, là. Va te promener dans des terres agricoles, traverse une clôture au hasard, là. Ça se peut que ça tire à côté de toi et que le coup de semonce décalisse, là. T'sais,
le premier épisode du remake de Lethal Weapon sur Netflix. OK? Ça commence, il y a une poursuite en auto. Mm-hmm. C'est au Texas. Tu sais, on changeait un peu le storyline, là. Martin Riggs, là. Il y a une vie avant, là.
Mel Gibson,
là.
On
a retrouvé avec Roger Murtha, là. C'est pas les mêmes acteurs, là. Bon. Là, il y a une poursuite. Le téléphone cellulaire sonne. C'est la femme de Martin Riggs. Puis elle est en train de dire que son accouchement, il est commencé. OK? Ah, bébé, yes, sir. Hey, hey, là, un moment donné, Martin Riggs, il crisse les breaks. C'est son pick-up, là. OK? C'est comme ça a dû arriver, puis il était en congé, tu sais, les grands classiques d'Hollywood. Chris les breaks du pick-up, part à la course, s'en va en arrière dans la boîte. Son gun rack, il est là, il en a pris un. C'est un sniper gun qui a ça dans son pick-up, OK? Il s'accote. Là, tu sais, ça donne l'impression qu'il aurait pu arrêter cette poursuite-là n'importe quand. Il avait juste embarqué dans sa boîte, puis s'accoter, puis tu sais, c'est un tireur d'élite, puis tout. Fait que, tu sais, l'image que ça envoie, là, écoute ça, c'est... J'avais une poursuite parce que je suis tellement badass que je la continuais, mais dans le fond, là, ma femme m'appelle pour me dire qu'elle est en train d'accoucher, je m'en vais dans la boîte du pick-up, j'accote mon sniper gun avec un scope à 20 000 piastres, un coup, le truck saute dans les, tu sais, ceux qui poursuivent, ouais. Ça, il explose, puis là, il peut enfin aller au chevet de sa femme qui est en train de donner la vie, tu sais.
Il n'y a pas
de
temps de niaiser.
Ça, là, c'est comme, tu sais, tu parlais justement que c'est culturel pis tout, là. Tu sais, c'est pas le gars, c'est un bon futur époux ou bon futur papa parce qu'il a tout lâché pis il est allé au chevet de sa femme. Non, non, non. Il est cool parce que il a tout arrêté ça, lui, en 2 minutes. Là, on sait l'histoire, sa femme a meurt, ouais. Pis je m'excuse, là, je vous divulgage ça, mais, fait que, tu sais, ça, là, pis je me rappelle, on n'avait pas parlé de ce qu'on parle aujourd'hui, pis je l'ai écouté, pis j'étais comme, aïe, aïe, asti que c'est gros, ça a aucun espèce de sens, là, tu sais. Ah ouais, il est tellement cool que là, hein, là, il se ramasse à LA, parce que ça, là, son beau-père, il est dans pas, yeah. Mais c'est ça, là, pour moi, là, tu sais, y a rien qui fait l'apologie des guns, là-dedans. C'est toute l'image et la sauce dans laquelle le gun arrive et ce qu'il représente dans l'affaire.
La solution.
La culture américaine.
La solution finale. Tout se règle à coup de gun. Moi, je vais terminer en m'inspirant d'un commentaire qu'il y a eu sur un post que j'ai fait justement sur cette situation-là, sur le crachoir. Il y a quelqu'un qui a commenté. Puis on va s'en aller après ça sur la poutine. Ils se battent pour des fœtus, puis ils laissent leurs enfants se faire tirer dessus dans les écoles. C'est ça, les États-Unis d'Amérique. Martin, là, poutine, essaie de nous remonter ça, parce que là... déprimant un peu mon enfant.
Ben, écoute, il existe des munitions qui ne sont pas létales, et là je parle de vos munitions de fromage. Elles font du bien, elles ne causent aucun événement triste. Et vous font du bien et propagent le bien. Vous vous rendez sur fromageauvillage.ca/boutique. C'est le code rabais Deep Steak. Tous les produits qui sont en boutique seront assortis d'un rabais de 10 %. Et si vous placez une commande de plus de 75 $, vous n'aurez aucun frais de livraison. Et ce, partout au Québec. Ça, c'est l'autre affaire. Petit, très léger, mais à coule pas à faire. Ça fait, doit faire 4 semaines qu'on vous parle du fameux assortiment Deep Steak. Ça va être 7 semaines. Je vous en donne ma parole. Ça a été logistique et je dois reparler avec mon amie Hélène. D'ailleurs, on les remercie de s'associer au crachoir et à peu près à tous les projets qu'on a ensemble. Moi pis toi, Frank, parce que Hélène était en vacances et c'est des affaires qui arrivent. Et on remercie bien sûr Anne, Hélène et Christian de nous permettre un peu de s'associer à eux et eux à nous avec leurs excellents produits. fromageauvillage.ca/boutique, le code rabais Deep Steak. Sinon, ben après votre dégustation, joignez le Deep Steak, super facile, patreon.com/crachoir et toutes les explications seront là sur les différents niveaux de contribution et de participation justement au Deep Steak. Je rappelle également, on est dans la poutine après tout, je vous rappelle que la nouvelle maison de l'After Show, c'est maintenant twitch.tv/touskitv en rediffusion. Je parle de l'After Show ici, en rediffusion les mardis à 21h sur Facebook, ménage du dimanche. Et vous êtes peut-être pour la première fois des nôtres sur touskitv ce soir. On est en fait diffusé également à 20h et en simultané sur radioh2o.ca et en rediffusion sur touskitv toujours les vendredis à 18h, juste avant le Touski Show, qui est mon show dans lequel je fais tout ce qui me plaît. Voilà.
Et pour accéder à Touski, vous n'avez pas besoin d'être membre, vous n'avez pas besoin de partir. Oh. C'est tellement facile. Vous allez sur Twitch, vous marquez Touski TV, puis vous y arrivez. C'est aussi simple que ça.
Twitch.tv, puis faites une recherche Touski TV, bang, vous allez tomber sur nous autres. Et j'en profite aussi, Frank, parce que j'imagine, tu sais, je pense que ça a déjà été établi qu'il y a beaucoup de gens qui suivent le crachoir, qui ont découvert d'autres affaires et d'autres contenus sur Touski TV. Un énorme merci et salutations à nos collègues dans cette aventure, bien sûr. CC Suburban, Dom C, Sika, moi-même et puis toi.
Et si ce que vous aimez, ce que vous attendez, la meilleure façon de nous encourager, c'est vous abonner au Patreon/crachoir ou d'acheter du fromage de la fromagerie au village, parce que c'est la façon la plus claire de nous montrer que vous appréciez ce qu'on fait. Et en plus, le fromage, on l'a déterminé, est une force pour le bien. Et puis, on va finir sur American Idiot de Green Day. Ben, je voulais vraiment mettre cette chanson-là, mais je voulais pas le mettre la version originale, parce que vous le savez, je mets jamais ou presque jamais de version originale à la fin des shows. Alors je m'en suis remis encore à Frog Leap Studios, qui ont fait une excellente version métal de cette chanson. Fait qu'on se quitte là-dessus. C'était le crachoir, épisode 210. In Gun We Trust. Don't wanna be an American idiot. Don't want a nation under the new media. Can you hear the sound of hysteria? The subliminal mind, fuck America. Welcome to a new kind of tension. All across the alien nation, where everything isn't meant to be okay. Television dreams are
de la famille H2O Web Media.